On attend encore une minute les dernières snul. Si je dis snul en patois, vous savez ce que ça veut dire? Non, patois savoyard. Qui connaît le mot snul? Ah ouais, les savoyards, ils sont vraiment tous partis en week-end, quoi. Bon, d'accord. Ok. Bon. Les snuls, c'est ceux qui sont pas rapides, quoi, qui traînent, tout ça, pour rentrer dans les salles. Bon. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Vous l'avez sans doute déjà entendu de nombreuses fois, mais je vais refaire le laïus traditionnel. Vous êtes entrés dans cette salle gratuitement, mais vous sortirez en payant. Voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire que vous avez déjà mis, vous mettez selon ce que vous pouvez, ce que vous voulez, même si vous mettez rien, on ne va pas vous courir après, quoi. Tout ça pour vous dire que notre association et cet événement ne vit que grâce à votre générosité, et on sait qu'elle est bien présente. Et c'est aussi notre gage de liberté, puisque nous ne demandons aucune subvention, aucune aide de qui que ce soit, et même si on en demandait, c'est pas sûr qu'on en obtiendrait. Donc voilà. Donc je sais, il y a 3 mecs à la tribune, c'est pas bien, mais dans la conférence d'en face, il y a 3 femmes. On s'en sort comme on peut. Bon. Donc voilà, on vous remercie d'être venus nombreux. La conférence qu'on va vous proposer, donc en compagnie de Bernard et Samuel, donc s'intitule, je vais reprendre l'intitulé exact pour pas, Protection sociale, l'ultime attaque de Macron. Donc déjà, on va essayer d'éviter de prononcer des gros mots et on va essayer aussi de porter un discours un petit peu positif. Parce que c'est pas le tout de faire des constats. Bah, le but de ce rassemblement, c'est pas de partir plomber et puis qu'on dise il y a plus de solution, il y a plus rien à faire. Donc on sait que, notamment avec Bernard, mais aussi avec Samuel, on va essayer de porter quelque chose de positif. Donc c'est vrai que si on fait un état des lieux, si on regarde aujourd'hui, on pourrait être un petit peu sceptique quant à l'évolution de la protection sociale, de l'assurance chômage, la protection sociale au sens large, autant qu'on voit que là, on glisse vers un système individualiste pour essayer aussi de privatiser et de faire échapper à la sécurité sociale bon nombre de pentes de notre protection. Après, il y a des solutions qui existent. On voit se glisser parfois dans des discours. Emmanuel Macron, en 2018, qui disait qu'il faudrait peut-être que l'indemnisation chômage soit indexée sur l'activité économique. Donc on aurait une espèce d'indemnisation chômage qui fluctuerait un petit peu comme ça. Donc au niveau de l'intranquillité sociale, comme disait Ambroise Croizat, ce serait quand même le comble. On voit beaucoup de choses fleurir comme ça dans les discours. Donc c'est aussi pour lutter contre cet état de fait qu'on est là aussi aujourd'hui. Il y a quand même, si on veut être un petit peu optimiste, on voit aussi que depuis quelques temps, on voit de belles choses fleurir. On commence à parler de sécurité sociale alimentaire, on voit des gens qui réfléchissent pour trouver des solutions alternatives. On voit aussi des mots qui étaient des gros mots il y a quelques années en arrière, comme la planification, comme la régulation, comme tous des mots qui étaient imprononçables, qui deviennent prononçables. Et on peut dire aussi qu'aux dernières élections présidentielles, on sent quand même un vent nouveau soufflé d'optimisme, d'espoir, et puis aussi une forte proportion de jeunesse qui ont envie de proposer autre chose et d'envisager des jours heureux, comme on disait à l'époque. Donc on va essayer de se faire le relais de tout ça pendant 2 heures. Donc un petit peu plus d'une heure d'échange entre Samuel, Bernard et moi, qui vais essayer de limiter leur débit de parole parce qu'ils parlent beaucoup tous les deux. Et puis ensuite, on vous laissera le temps des questions, des réponses, et en espérant que tout ça vous satisfasse. Voilà. Donc je laisse tout d'abord la parole, peut-être on va commencer avec Samuel pour quand même faire un état des lieux, parce qu'avant de proposer des choses mieux, il faut dire qu'il faut quand même partir de quelque chose d'existant. Donc Samuel, je te laisse la parole.
Alors il est bon temps de se présenter, j'ai vu ça dans les autres conférences. Donc moi je m'appelle Samuel Surin, je suis comédien et je rentre dans la lutte politique en 2003 quand il nous tombe une réforme d'assurance chômage absolument inacceptable sur les intermittents du spectacle. Et là, la première chose qu'on fait avec quelques camarades, c'est qu'on étudie en profondeur la réforme. On l'étudie en profondeur. Et on voit l'immense écart entre la réalité de la réforme et ce que les médias en racontent. Et donc la première chose a été de comprendre ce qui nous arrive et de l'expliquer aux intermittents du spectacle pour qu'ils sachent exactement ce qui va nous arriver, et puis de l'expliquer au grand public. Et ensuite, de faire des propositions. Et fort de ça, on a été très fort. On était très fort parce qu'à la fin, on est devenus les meilleurs spécialistes de l'assurance chômage, on avait en face des gens au cabinet ministériel qui étaient réellement nettement moins forts que nous. Et le fait de savoir comment on est mangé, pourquoi on est mangé, et de décrypter en détail et de manière très, très, très précise ce qui nous arrive, c'est une chose très, très, très importante. Et donc, je pense que, enfin, je vais commencer par ça. Je vais commencer par parler du Conseil national de la résistance et de voir d'où on est parti, où on est arrivé, essayer de comprendre comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé, avec la propagande qui va avec. Je voudrais rappeler les quatre, déjà, citer Croizat, hein, s'unir, on est unis, pas unis, pas d'acquis, ok. Ne parlez jamais d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. Ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, je voudrais vous lire cette petite déclaration qui, pour moi, est absolument essentielle. En mars 1944, ils sont encore dans le maquis. Nous, combattants de l'ombre, exigeons la mise en place d'un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Dans une France libérée, nous libérerons le peuple des angoisses du lendemain. Des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Donc la sécurité sociale, qui comprend les retraites, par répartition, c'est quoi ? Quatre principes. L'unicité, hein, tous les risques sociaux, maladies, maternité sont regroupés dans une seule caisse, qui n'est plus le cas maintenant. La solidarité, donc un système de répartition entre actifs et non actifs, financé par la richesse créée dans l'entreprise. Et donc là, on a bien chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins, grand principe, qui est évidemment hyper attaqué. L'universalité, sous-tendu que par l'idée de soigner toute la population et de suivre dans sa santé l'individu de sa naissance à son décès, là on se rapproche clairement des droits attachés à la personne, strictement déconnectés de l'emploi dont Bernard va parler. Et puis aussi, la démocratie, c'est-à-dire la volonté de confier la gestion de l'institution aux bénéficiaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, pour Croizat, le MEDEF n'aurait pas la parole. Alors comment ça s'est passé ? Pourquoi est-ce que là, on en est à 10 millions de pauvres, à 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés, et un chômage, contrairement à ce qu'on dit, qui explose, puisqu'on ne parle que des catégories A qui, elles, diminuent. Les catégories A, ce sont des gens qui sont totalement au chômage, mais il suffit qu'on vous mette en stage pour quitter cette catégorie A et pour échapper aux statistiques. Il suffit que vous fassiez un petit boulot de 2 jours, vous quittez cette catégorie A. Ce qui a explosé, il faut bien comprendre, au niveau de l'assurance chômage, ce n'est pas les catégories A qui sont relativement stables, c'est les catégories B et C, ceux qui alternent, les précaires, ceux qui alternent chômage et emploi. Là, en gros, on est passé, dans notre passé, en 10 ans, de 500 000 à 1 800 000. C'est énorme, l'explosion des précaires. Ça, on n'en parle jamais, puisque ça échappe aux statistiques des chaînes d'infos et de France Télévisions. Quand vous voyez les statistiques du chômage, on ne parle que des catégories A. Hein. Il y a 6 millions de chômeurs, on vous raconte toujours qu'il y en a 3 millions. Il y a 6 millions de chômeurs, il n'y en a pas 3 millions, il y en a 6 millions. Bien. Alors, comment ça s'est passé ? Ils ont commencé à attaquer la démocratie, le principe démocratique, là, la gestion de l'institution aux bénéficiaires eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils ont fait ? En 1958, le CNPF, donc l'ex-MEDEF, rentre dans la danse. Signé à l'époque par la CFTC, la CGC et FO. Avant ça, seuls les salariés étaient gestionnaires de leur caisse. À partir du moment où ils ont fait rentrer les patrons dans les caisses sociales pour négocier les accords, ça a été le début de la fin. Pourquoi ? Parce que le MEDEF, je parle du MEDEF avant CNPF, mais on va parler du MEDEF, il faut bien comprendre que le MEDEF avait le droit de veto sur tous les accords. Puisque, pour comprendre comment ça se passe, du côté employeur, il y a 3 syndicats qui sont dits représentatifs, le MEDEF, l'UPA, les artisans, et la CGPME, les petites et moyennes entreprises. Inutile de vous dire que le MEDEF pèse énormément et que les deux autres suivent le MEDEF. Donc le MEDEF a le droit de regard sur tout. De l'autre côté, il y a 5 confédérations de salariés qui sont dits représentatifs. La CFDT, la CGC, la CFTC, FO et la CGT. Eux, ils sont toujours divisés. Donc si jamais le MEDEF arrive à chaque fois à trouver un partenaire, c'est bon, il signe l'accord. Donc, un accord sans la CGT, sans FO, c'est possible. Un accord sans le MEDEF, c'est pas possible. C'est pourquoi tous les accords étaient rédigés sur une feuille de route du MEDEF, au siège du MEDEF. On pourrait se dire, un accord, ça doit être rédigé au ministère du Travail. Non, c'était rédigé chez l'ennemi, au MEDEF. Hein. Et je vous rappelle qu'en 1789, on n'a pas accepté que le peuple vale une voix, que la noblesse vale une voix et que le clergé vale une voix. On a dit, on est quand même peut-être un peu plus nombreux que les deux autres. Et là, on a accepté ça.
Donc, ce n'était pas terrible. Et on a commencé à vivre la décadence et la décadence de l'assurance chômage. Et puis, on est arrivé là au fond du fond du fond du fond, où Macron, par un tour de passe-passe, a décidé de supprimer les cotisations sociales pour les salariés et remplacer ça par de la CSG, donc par de l'impôt. Donc là, on n'est plus du tout dans l'histoire de la cotisation de Croizat. Et là, l'État reprend la main en disant, bah, écoutez, si vous ne vous mettez pas d'accord, c'est nous qu'allons rédiger l'accord de l'assurance chômage. C'est nous qu'allons rédiger l'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont rédigé un accord que même le MEDEF n'aurait pas imaginé, que le MEDEF n'aurait pas pu signer, puisque là, cet accord-là, pour la première fois dans toute l'histoire de l'assurance chômage, les 5 confédérations salariées sont d'accord pour être vent debout contre cet accord. Donc l'accord n'aurait pas pu avoir lieu sous Hollande. Hein, il n'aurait pas pu avoir lieu sous Hollande. Mais là, comme l'État a repris la main par cette histoire de CSG, donc maintenant c'est l'État qui décide. C'est même plus un accord patron-salarié. C'est l'État qui décide. Donc les conséquences, ça a été très clair au niveau de l'assurance chômage. On s'est touché directement le principe de solidarité dont j'ai parlé. Répartition entre actifs et non actifs, chacun cotise selon ses moyens et personne selon ses besoins. On a commencé à partir de 1984, où là, effectivement, commençait à signer un accord où il y a une inversion de l'indemnisation. C'est-à-dire, avant 1984, plus vous étiez chômeur, plus vous étiez risque de chômage, plus vous étiez couvert. Après 1984, c'est plus vous travaillez, plus vous êtes couvert. Et plus vous êtes chômeur, moins vous êtes couvert. C'est-à-dire qu'on inverse le principe de chacun cotise selon ses moyens et perçoit selon ses besoins. C'est-à-dire qu'on ne couvre pas le risque. On passe d'une assurance sociale à une prime à l'emploi, ou alors ce qu'on pourrait appeler aussi à un compte épargne. Voilà. Donc on frappe directement le principe même de Croizat. Et puis là, avec la dernière réforme, on va encore plus loin. On va encore plus loin, puisque là, Borne a osé mettre en place, à la suite de Pénicaud, la pire réforme qui ait eu lieu depuis 1945. Il n'y a pas eu pire. Vous ne pouvez pas trouver pire.
Une femme de gauche.
Une femme de gauche. Elle avait massacré avec la SNCF, et là, derrière, elle massacre. Et là, elle a fait très, très mal. Encore une fois, pas pour ceux qui sortent de l'emploi stable, mais pour les salariés précaires. Pour ceux qui alternent, comme nous, intermittents du spectacle, qui sont les intermittents de l'emploi, on voulait trouver les extras de l'hôtellerie, de la restauration, les maîtres nageurs dont on en cherche actuellement, les guides conférenciers, tous ceux qui travaillent là en ce moment au Festival de Cannes pour faire du renfort pour le festival, etc. etc. Tous ceux-là sont absolument massacrés. Ils sont massacrés, deux choses. Ils ont très fortement durci les critères d'accès. Donc les critères d'accès, les critères, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les critères qui permettent d'accéder à l'assurance chômage. Conséquence de quoi ? 20 000 personnes par mois, 20 000 personnes par mois en moins qui sont potentiellement indemnisables. C'est-à-dire qu'il y avait, si on compare avec avant, il y a 20 000 personnes en moins qui ne peuvent pas accéder à l'assurance chômage, premièrement. Et deuxièmement, ils ont mis en place une monstruosité, que parenthèse, c'est pour ça que quand je compare avec Trump, les gens me disent « t'es fou », on peut comparer avec Trump parce que Obama, avec l'Obamacare, avait interdit le principe d'experience rating, c'est-à-dire le principe de malus au niveau de l'assurance maladie aux États-Unis. C'est quoi ce malus ? C'est d'indexer votre couverture en fonction de votre ancienneté. Vous avez été pendant 6 mois malade, et ben on vous dit l'année prochaine, hein, les 6 premiers mois, c'est pour vous. Et on commencera à vous indemniser au bout du 7e mois. Hein. C'est comme les malus dans le truc. Là, elle a fait de l'experience rating. Et Trump n'a pas réussi à le faire, parce que Trump a voulu revenir là-dessus, a voulu appliquer l'experience rating au niveau de la sécurité sociale, au niveau de l'Obamacare, au niveau du plan aux États-Unis, et ce n'est pas passé au niveau du Congrès. Là, elle a fait ça pour l'assurance chômage. Imaginez-vous quelqu'un qui a été 4 mois au chômage l'année d'avant, qui est truc, eh bien l'année d'après, les 4 premiers mois, on lui dit « mon gars, c'est pour toi ». Tu vas commencer à être indemnisé qu'au bout du 5e mois. Elle a fait de l'experience rating, elle a réussi à faire passer ça. Et en plus, dans un immense déni de démocratie, parce que la réforme a été retoquée 2 fois au Conseil d'État, 2 fois, on a réussi à la faire retoquer 2 fois, non pas parce qu'elle est monstrueuse, parce que le Conseil d'État n'a pas de regard sur les réformes monstrueuses. Si demain on arrête l'assurance chômage, le Conseil d'État n'a rien à dire avec ça. Mais c'est parce qu'il y a des différences énormes entre 2 indemnisables. Vous avez 2 personnes, 2 salariés, qui travaillent exactement, qui font exactement le même travail, qui sont payés exactement pour le même salaire, qui font exactement le nombre d'heures. La seule différence, c'est qu'ils ne déclarent pas au même moment. Il y en a un qui va déclarer du 20 au 30 du mois, et l'autre qui va déclarer du... il y en a un qui va déclarer du 1er au 15, et l'autre qui va déclarer du 20 au 10, qui va être à cheval sur 2 mois. Bien. Eh bien, ces deux personnes-là, vous pouvez avoir des écarts de 1 à 40 au niveau de l'indemnité. Il y en a un qui va pouvoir toucher 50 euros sur 2 ans, et l'autre 19 000 euros sur 2 ans. Et donc ça, le Conseil d'État a dit, ah non, il faut quand même une égalité avec le droit. Donc ça a été retoqué une fois, au nom de l'égalité entre les gens. Retoqué une deuxième fois, on a appelé ça la grande loterie, parce que c'est une grande loterie. Voilà, quand vous êtes intermittent de l'emploi, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas maître de vos déclarations. Vous ne pouvez pas dire à votre traiteur, ah ben non, moi là, il faut que tu me déclares du temps au temps, et puis pas dans le temps du temps au temps. Et alors, comment elle s'est débrouillée? La deuxième fois, c'était retoqué au mois de juin dernier. Elle a viré son directeur de cabinet, cette femme de gauche, c'est si gentille. Elle a viré son conseiller emploi, conseiller chômage, pour dire, non, mais toi, t'es vraiment un nul. Elle a repassé exactement le même texte. Exactement le même texte. C'est la première fois qu'un gouvernement s'assoit sur une décision du Conseil d'État. Elle repasse exactement le même texte, et là, tour de passe-passe, ils ont changé, effectivement, les juges, qui ne sont pas des juges, qui sont des hauts fonctionnaires, qui sortent de l'ENA, qui ont statué là-dessus. Et évidemment, dans la commission-là, il y avait essentiellement des copains de Macron, dont des copains de promotion, et on était en novembre, et pour des raisons politiques, la campagne était commencée, ils ont fait passer cette réforme, qui, encore une fois, en droit, est une abomination. Et comment on en arrive à tout ça? Comment on en arrive là? Donc là, c'est les conséquences. Mais je vais commencer par parler de quelque chose, et puis ensuite Bernard continuera. Je pense que, déjà, il faut dénoncer la propagande. Comment on en arrive là? On en arrive là avec des phrases de Sarkozy mettant en avant le smicard qui se lève tôt contre le chômeur qui se lève tard. Et puis le mythe de l'horizon indépassable de l'emploi. Le mythe de l'emploi à tout prix et surtout le mythe du plein emploi. Alors là, il faut tordre le cou à tout ça. Le plein emploi n'existe pas, n'existera jamais. D'accord ? Il y avait une sorte de plein emploi dans les années 50, enfin avant les années 60, quand la moitié de la population, entre guillemets, n'était pas employée, à savoir les femmes. C'est là qu'on pourrait faire une grosse différence entre travail et emploi. Les femmes travaillent énormément. Je crois que le chiffre, c'est que les femmes font 75% du travail dans le monde et sont employées que pour 25%. Donc, quand une femme élevait ses enfants, quand une femme faisait la vaisselle, effectivement, elle travaillait, mais elle n'était pas employée. Si on peut prendre la définition généraliste, que vous êtes employé quand vous êtes assujetté à une fiche de paye, même si Bernard a une définition plus précise de ça. Donc, différence entre travail et emploi, c'est énorme. Et donc, le plein emploi n'existe pas. Et au nom de l'emploi, on nous fait avaler tout, absolument tout. La dernière monstruosité, c'était sous la plume de Macron, sous Hollande, le CICE, crédit d'impôt compétitivité. Eh bien, si on vous dit, écoutez, je vais vous prendre du fric, d'accord, et ce fric, je vais le mettre directement dans les poches de Bolloré et de ses actionnaires. Vous diriez non. Mais si on vous dit ça, on le fait ça au nom de l'emploi, tout le monde accepte. Tout le monde accepte. Et à l'époque, Gattaz, le patron du MEDEF, avait son pins, création de 1 million d'emplois. Ils n'ont créé, évidemment, zéro emploi, mais c'était le prétexte magnifique, zéro emploi, et effectivement, ça a fait des fonds de pension, des actionnaires, qui avaient des marges plus importantes, grâce à ces 40 milliards qu'on leur a donnés. Le prix de l'emploi à tout prix, en France, c'est plus de 100 milliards d'euros par an. Plus de 100 milliards d'euros par an dépensés au nom de l'emploi à tout prix, quand on met en parallèle ce qu'on a vu ce matin dans le film des Pinceaux Charlot, que même si c'est rien, si on passait le RSA à 1000 euros, si tout le monde avait 1000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, mais tout le monde à 1000 euros, ça coûterait 10 milliards, vous imaginez, rapporté aux 40 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux qu'on fait à Bolloré et compagnie. Et j'aborde le sujet immédiatement suivant. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi est-ce que nous, intermittents du spectacle, on a tant été attaqués? Parce que finalement, on est le modèle idéal, même s'il y a plus, il y aurait plus idéal encore, on pourrait améliorer la chose, de continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Il est là l'enjeu, assurer un salaire à tout le monde. Continuité de revenus sur discontinuité d'emploi. Et alors là ce qui se joue, pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué les intermittents de l'emploi, qui ont été massacrés les intermittents de l'emploi pendant le Covid ? Les seuls à ne pas avoir été aidés. 1 200 000 personnes qu'on a laissé crever pendant le Covid parce qu'eux n'ont pas eu de chômage partiel, ils n'ont pas eu, comme nous, la fameuse AD blanche, nous assurant une continuité d'assurance chômage. On les a laissés crever. Donc maintenant, vous inquiétez pas, c'est normal qu'on ne trouve plus de maîtres nageurs, qu'on ne trouve plus de maîtres d'hôtel. Ça, vous pouvez dire merci à Elisabeth Borne. C'est directement les conséquences de sa réforme et la conséquence de sa non-aide. Mais ce qui faut bien comprendre, c'est ce qu'ils cherchent avant tout, c'est le lien de subordination, le tendre au maximum. Le lien de subordination, c'est le lien qui lie l'employeur au salarié. Plus il est tendu, mieux c'est pour l'employeur. Mieux c'est pour l'employeur. Et il leur faut une armée de réserve. C'est pour ça que quand on touche à l'assurance chômage, quand on touche aux précaires, dites-vous bien qu'on touche aussi au droit de l'emploi stable. Pourquoi ? Parce que celui qui a un emploi stable, on lui dit « si t'es pas content, tu te casses » et il y en a 200 qui veulent ta place. Et donc chacun s'accroche à son emploi, même humilié, même méprisé, même pénible. Chacun s'accroche à son emploi à tout prix parce que l'assurance chômage à l'extérieur, c'est une horreur. Le jour où il y aura des droits pour tout le monde, les gens auront la possibilité de dire non. C'est un levier extraordinaire d'avoir la possibilité de dire non. De dire non, tu me donnes ça ? Mais moi, je me casse, je m'en fous. Et je peux vous dire que les intermittents du spectacle, nous avons coutume de dire que nous sommes un laboratoire. Nous l'avons vécu très concrètement. Je vous explique le phénomène. C'est ce qui se passe, et c'est ce qui se passe là pour les autres. Et après, j'arrête. En 2003, on nous baisse nos droits. On nous dit, vous allez avoir moins de temps pour faire vos heures. OK. Conséquence de quoi ? Immédiate. Baisse généralisée des salaires. Pourquoi ? Parce que les employeurs savaient bien que quand ils employaient un intermittent du spectacle, ça lui apportait les heures qu'allait permettre de renouveler son intermittence. Et donc, quand vous avez plus de temps pour faire vos heures, vous avez plus le choix de dire non à des projets qui ne vous plaisent pas, de dire non à des projets mal payés, et puis de faire autre chose à côté, de faire de la politique, de penser, etc. etc. Quand on vous réduit vos droits, vous acceptez tout et n'importe quoi. Et évidemment, à n'importe quelle condition, pour renouveler ce qu'on appelle un statut qui n'est pas un statut, qui est un régime spécifique d'assurance chômage. Hein. Et pour revenir à ça, pourquoi est-ce que les intermittents du spectacle sont très regardés ? Parce que si on revient à l'origine des fameux intermittents du spectacle qu'on appelle les années 8 et 10, nous n'avons pas obtenu ce régime spécifique parce que nous étions de la culture. Pas du tout, du tout, du tout. Nous avons obtenu ça parce que nous étions un exemple de discontinuité de l'emploi. C'est au nom de la discontinuité qu'au départ, on crée ce régime. Pourquoi ? Parce que le régime général marche très bien pour les gens qui sortent de l'emploi stable, mais ne marchait pas pour nous qui avions des contrats gruyères. Donc on imagine une annexe au règlement pour que cette annexe au règlement soit adaptée à nos pratiques d'emploi. Mmh. Mais on aurait été des chaudronniers, ça aurait été pareil. On n'obtient pas ça à cause de la culture. Ce n'est pas ça l'exception culturelle. L'exception culturelle, c'est uniquement que la culture n'est pas une marchandise comme les autres et ne peut pas être mise en concurrence. Mais ça, ce sont des droits sociaux. Et alors qu'ils ont maintenu, nous, comme une réserve d'Indiens, les intermittents du spectacle, ils ont basculé les intermittents de l'emploi, il y a quelques années, sous Hollande, au régime général. Et là, ces gens-là se sont fait massacrer.
Ouais. On peut quand même dire que si la force du monde de la culture, c'est que justement il y a des porte-paroles, il y a des porte-voix, et ils ne peuvent pas se permettre de faire la même chose aux intermittents de l'emploi qu'aux intermittents du spectacle. Et c'est beaucoup plus difficile. Juste un petit constat par rapport à ce que tu dis, à ce petit jeu-là, on s'est rendu compte que, comme tu dis, on ne trouve plus de maîtres nageurs. Nous, chez nous, c'est difficile de trouver des saisonniers. Dans les remontées mécaniques, ils ont subi cette discrimination. Et on voit aussi que, globalement, il y a aussi des gens qui ne veulent plus en plus de jeunes, qui ne veulent plus jouer ce jeu de l'emploi et qui se mettent en marge et qui en ont marre. Parce qu'une humiliation, deux, trois, quatre, au bout d'un moment, ils ne veulent plus jouer à ce petit jeu-là. Toi, Bernard, tu étais un petit peu, enfin, pas sceptique, mais ce sur quoi tu te bats, c'est justement l'attachement des droits à l'emploi, ce qui était cité déjà dans la déclaration du Conseil national de la Résistance, mais déjà qu'à la Libération, en fait, c'est la performance de la CGT et de la négociation, c'est justement de ramener des droits aussi à la personne, quoi, et pas forcément attachés à l'emploi. Mais on va te laisser...
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce que Samuel vient de dire à propos de la réforme Borne... montre bien combien le fait d'attacher le salaire à la personne et non pas à l'emploi est totalement combattu par la classe dirigeante, alors qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là et qu'on ne part pas de zéro. Pour simplifier la réforme Borne, hein, si vous avez au cours des deux dernières années été dans l'emploi pendant un an et pendant un an, vous n'êtes pas dans l'emploi, eh bien, c'est votre indemnisation, elle va être calculée non pas sur votre année de salaire, mais sur vos deux années de ressources, qui comportent une année sans ressources et une année de salaire. Et donc, votre indemnisation, elle va être divisée par deux. C'est en finir pour la classe dirigeante avec la dissociation progressive conquise. Dieu sait si le statut d'intermittent du spectacle est un conquis. De la dissociation entre le droit au salaire et l'emploi. Pour les intermittents du spectacle, dès lors qu'il y a 507 heures d'emploi dans l'année, ben, il y a un droit au salaire sur toute l'année. Et dans de nombreuses autres situations, nous étions dans une situation moins avantagée, entre guillemets, que les intermittents, mais où le chômage était l'occasion de conserver son salaire alors même qu'on n'avait pas d'emploi. Et c'est ce droit-là qui lie le salaire à la personne et non pas à l'emploi qui a toujours été contesté. Parce que, évidemment, si nos droits sont liés à notre personne, nous avons infiniment plus de pouvoir, disons, que si nos droits sont liés à la bonne volonté d'un employeur. Et ça ne vaut pas que pour l'indemnisation du chômage, cette affaire, ça vaut pour la retraite. La retraite a été construite par Croizat comme un droit au salaire pour les retraités. Ça ne tient aucun compte des cotisations dans le régime général. La retraite du régime général, telle que Croizat la met en place, c'est copié sur celle de la fonction publique, c'est-à-dire que c'est la poursuite d'un salaire de référence. À l'époque, le salaire des 10 dernières années. Bon. Et cette poursuite du salaire ne tient absolument aucun compte des cotisations. Ce n'est pas du tout du « j'ai cotisé, j'ai droit ». Ça, c'était la situation antérieure des assurances sociales. Et c'est la situation que le patronat va restaurer dès 1947, donc dès le lendemain de 1946, avec l'AGIRC, où on a un compte qui additionne toutes les cotisations de carrière, et c'est en fonction des cotisations que l'on a droit à une pension. Le mot salaire n'est jamais prononcé, ce n'est pas du tout une référence. Alors que dans le régime général, dans la fonction publique, ce n'est pas du tout la cotisation qui fonde le droit à pension, pas du tout. Vous vous souvenez de Mammouth, avec Depardieu et qui a eu une carrière merdique et qui, la veille de sa retraite, prend sa moto et fait le tour de ses employeurs pour avoir une attestation, reconstituer sa carrière. Et il reconstitue sa carrière et il aura droit à pension, quelles que soient les cotisations qu'il a versées. Encore une fois, Croizat pose les retraités comme des travailleurs qui ont droit à du salaire sans passer par le marché du travail, sans emploi. Les allocations familiales de 1946, c'est pareil d'ailleurs. Les allocations familiales de 1946, la loi d'août 1946, la loi Croizat sur les allocations familiales, les pose comme du salaire pour les parents. C'est 225 heures par mois pour deux enfants de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, et ça augmente avec le taux horaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, alors même qu'il n'y a pas emploi, mais il y a salaire. Cette dissociation du salaire et de l'emploi pour attribuer du salaire à la personne est le fondement même de la fonction publique. Là, on est en octobre 1946, la loi Thorez sur le statut de la fonction publique. Les fonctionnaires d'État, là, c'est clair, il n'y a pas de caisse de retraite du tout. Ils continuent à être payés par le Trésor public sur la base de leur dernier salaire. C'est là. Pourquoi ? Parce que la qualification des fonctionnaires n'est pas liée à leur poste, mais à leur personne à travers leur grade. C'est toute cette affirmation de droit de la personne face au droit de l'emploi que les quelques situations que je viens de donner ou que Samuel rappelait à propos du chômage, est totalement combattu par une classe dirigeante qui ne tient nos vies que par le fait que nos droits ne sont pas liés à notre personne. Bon, on a vu pendant le confinement le bénéfice incroyable qu'il y a à avoir des droits liés à la personne, ou des droits en tout cas qui sont déliés de la mesure de l'activité qu'on est en train de faire. Parce que dans le capitalisme, la rémunération, c'est une rémunération à la tâche, toujours. Les travailleurs indépendants, ils sont rémunérés à la tâche. Mais les jeunes en CDD de mission, etc., qui n'accèdent pas précisément au salaire, à la qualification de la convention collective, ils sont également rémunérés à la tâche. Or, ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est que les fonctionnaires, alors certaines ont plus travaillé qu'avant, parce qu'elles étaient dans le service de santé, mais d'autres ont très peu travaillé, comme tout le monde, comme tous ceux qui étaient atteints par le confinement, eh bien, ils ont conservé 100% de leur salaire, parce que le salaire est un attribut de la personne. Et c'est ça qui doit devenir la situation commune maintenant. La réponse à l'attaque tous azimuts dont le droit au salaire est l'objet, c'est de le dénouer de façon beaucoup plus définitive encore de l'activité qu'on est en train de faire. Ça, c'est le cas des travailleurs indépendants. Ou de l'emploi sur lequel on est, ça c'est le cas des travailleurs qui ont un salaire à la qualification lié au poste de travail dans la convention collective. Mais déjà cela d'ailleurs, un salaire non pas lié à l'activité, comme toutes les rémunérations à la tâche d'un CDD de mission par exemple, mais un CDI qui respecte le salaire de la convention collective, ça a valu pendant le confinement 84% du salaire pour les intéressés. Même s'ils n'ont rien fait. Parce que le salaire à la qualification n'est pas du salaire à la tâche, précisément. Donc, nous avons déjà des avancées considérables qui dénouent notre droit à rémunération de notre performance sur le marché des biens et services ou dans une activité quelconque réputée productive et qui attache des droits à notre personne. Si on regarde les plus de 18 ans, le tiers aujourd'hui ont un salaire qui est attaché peu ou prou à leur personne. Le tiers des plus de 18 ans. Vous avez les 5 millions de fonctionnaires. Mais vous avez aussi la moitié des retraités. La moitié des retraités ont une pension qui est supérieure, surtout les hommes, ont une pension qui est supérieure au SMIC et qui est entre 70 et 100% de leur salaire de référence. Bon, c'est du salaire continué, donc c'est un droit au salaire. Celui-là même que Macron veut attaquer en disant « Mais non, les retraités n'ont pas droit au salaire, ils ont droit au différé de leur cotisation. Hein, » et on va généraliser la GIRC-ARRCO. Ça fait donc 8 et 5, 12 déjà. Ajoutons à cela les salariés des entreprises publiques qui sont à statut. Un autre ministre communiste de 1946, Marcel Paul, a copié le statut de la fonction publique dans le DFGDF, dans le décret de juin 1946 sur le statut des électriciens et gaziers. C'est très attaqué, mais ça existe encore. Macron a mis... a déclaré la fin du régime des cheminots, mais les cheminots en exercice ont toujours leur statut. Si on additionne la RATP encore, donc les salariés à statut, qu'on additionne donc aux 12 millions de personnes que je viens de dire, ajoutons à cela pour partie les intermittents du spectacle, même si le calcul des 507 heures est quand même particulièrement éprouvant, et puis une situation atténuée, mais qui se rapproche quand même du salaire attribué à la personne, c'est les branches dans lesquelles le syndicalisme a pu conquérir le droit à carrière, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'impossibilité, prenez la métallurgie ou la chimie, l'impossibilité
lorsqu'on change de poste, d'être sur un poste moins qualifié. Alors c'est le poste qui reste le support de la rémunération, donc il y a du chômage, il n'y a pas de poste, mais indirectement, la qualification est celle de la personne, puisqu'elle ne peut pas baisser en qualification à travers un poste moins qualifié. Si on additionne tout ça, on arrive à 17 millions de plus de 18 ans. 17 millions de plus de 18 ans aujourd'hui sont dans une situation de relative libération de leur salaire vis-à-vis de la performance sur le marché des biens et services ou sur le marché du travail. Continuons, passons à 100%. Je crois que la seule réponse à l'acharnement de la classe dirigeante contre le droit au salaire de la personne, c'est de se battre vraiment pour le droit au salaire de la personne. Et disant cela, j'invite mon parti, le Parti communiste, ou France Insoumise, ou la NUP aujourd'hui, à s'interroger sur un projet qui est un projet d'attacher le contrat de travail à la personne. C'est le projet, en gros, de la gauche de gauche aujourd'hui. C'est un projet qui est en recul par rapport à cette conquête qui attache à la personne non pas un contrat de travail, mais un salaire. Est-ce que nous avons droit au salaire ou est-ce que nous avons droit au contrat de travail? Quel est le préalable à la production? Le fait qu'il y ait des employeurs qui existent et qui nous embauchent? Et là, c'est le contrat de travail qui est premier, ou le fait que nous soyons là, comme travailleurs, les seuls producteurs de valeur, devant décider de ce qui est produit, et là, c'est évidemment le salaire qui est la seule préalable à la production. Et donc, le droit au salaire doit devenir un droit politique.
Bien. Donc, c'est bien avec Bernard, c'est la révolution avec le sourire, donc c'est chouette. Hein? Mais justement, alors, toi, tu as cette piste-là. Bon, après, les libéraux te diraient, mais comment on paye, comment on finance? On en parlera peut-être après. Mais toi, Samuel, puisque tu es plus dans la bataille et dans la lutte sociale, c'est quoi les solutions pour essayer d'inverser un peu la tendance, redonner le moral, redonner des droits? Est-ce que tu as des exemples qui font que... par la bagarre, vous avez quand même obtenu des choses, vous avez, pour lutter un petit peu contre l'idée que tout se passerait dans la joie et la bonne humeur, il faut qu'en face, ils aient la trouille, c'est quoi le...
Oui, est-ce que tu permettrais de répondre à ta question juste après?
Je t'en prie.
Non, je voudrais quand même vous parler des... Je voudrais quand même insister sur les mensonges qui président à tout ça et comment est-ce qu'ils arrivent aussi à mettre en place ces réformes et surtout à la figure du chômeur, la figure honteuse du chômeur. Ce que je veux dire, c'est que dans les médias, on le voit très bien, partout, même nous intimement, c'est très médiatique de voir des salariés qui vont se faire licencier. Là, on a tous les politiques. Et donc là, à ce moment-là, le salarié est une victime. Et quand il passe chômeur, il devient coupable. Très, très clairement. D'ailleurs, les hommes et femmes politiques qui s'intéressent aux premiers, comme François Ruffin, par exemple, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait un énorme travail. Mais effectivement, il est apprécié parce qu'il va, à juste titre, sur les piquets de grève, où il va essayer de sauver l'emploi de ces gens-là. Mais si vous avez le même homme politique qui va parler du chômage, lui, celui-là, de toute façon, on ne l'écoute pas ou il est totalement déprécié. Et d'ailleurs, si vous prenez un repas de famille, personne ne vous dira qu'il est au chômage. Il aura toujours il dit ouais, je suis menuisier, vous dira pas. Ou alors, s'il a retrouvé un emploi, maintenant un emploi de merde, tout le monde dira mais c'est bien, t'as retrouvé un emploi, etc. Même s'il n'est pas qualifié pour ça, c'est pas grave. N'importe quel emploi de merde, on lui dira c'est bien. Hein, bon. Donc effectivement, je vais dans le sens de Bernard, et j'irai même plus loin. Plein de fois, l'emploi est un frein au travail. Si on considère le travail comme travail, comme je vous dis, non imposé, sanctionné par une fiche de paye, etc. Dans le sens où, par exemple, vous avez tout un tas d'étudiants qui sont donc formés et donc payés par nos impôts,
qui sont ultra, ultra, ultra bien formés et qui, pour quelques points, ne sont pas au CNRS ou n'ont pas le diplôme qu'il faut et se retrouvent à faire un job qui n'a absolument rien à voir avec ce pour quoi ils ont été formés. On ferait mieux de leur dire qu'ils seraient beaucoup plus utiles à travailler, à être libérés et travailler ce pour quoi ils ont envie de travailler et ce pour quoi ils ont été formés. Bon. Eh bien, comment est-ce qu'on fait avaler tout ça ? Non seulement par la propagande dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'emploi à tout prix et tout ça, mais sur des immenses mensonges. Par exemple, sur les intermittents du spectacle, il y a eu le coût d'un milliard. Voilà, dès le départ, on a raconté à tout le monde qu'on était responsable de 1 milliard du déficit. 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Bon. Quand on s'est aperçu, quand on a vu que 100 000 chômeurs, ça coûtait 1 milliard, que c'était 1 milliard sur 38 milliards donnés pour l'assurance chômage, donc on s'est dit, mais pourquoi nous ? Parce qu'ils auraient très bien pu attaquer les plombiers au chômage, 100 000 plombiers au chômage, ça coûte 1 milliard pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils nous ont attaqué, nous. En fait, le déficit, il a été amené tout bêtement. L'assurance chômage était excédentaire en 2000, largement excédentaire. Ils ont décidé, et c'est ce qui préside à toutes les réformes, de baisser les cotisations. Ils baissent les cotisations, donc ils baissent les recettes. Et ensuite, ils se retrouvent déficitaires et ils trouvent un coupable. Et évidemment, ils essayent d'attaquer le régime qui est, entre guillemets, le plus révolutionnaire, ou du moins qui est le plus attaché à l'esprit de Croizat, à savoir une assurance de continuité de revenus. Et c'est celui-là qu'ils veulent attaquer. Et ils ne veulent pas nous l'attaquer pour des raisons économiques, puisque nous, on coûte la même chose depuis des années. C'est la même chose. On coûte la même chose depuis des années. Hein ? Mais ils veulent l'attaquer pour des raisons idéologiques, pour surtout qu'on ne serve pas d'exemple aux autres. Il y a eu ce truc-là. Et puis, avec les faux-semblants, parce qu'il y a plein de faux-semblants, ne croyez pas que l'emploi et le chômage, qu'on réglera le chômage par plus d'emplois. Chiffre que donne Mathieu Grégoire, un collègue et ami de Bernard, sociologue, prof à Nanterre. En 1996, il y a 3 millions de chômeurs, 3,2 millions de chômeurs. Entre 1996 et 2013, c'est là où on crée le plus d'emplois. Il y a 3 millions d'emplois créés, 3,2 millions d'emplois créés. 3 millions de chômeurs en 1996, 3 millions d'emplois créés entre 1996 et 2013. 3 moins 3, ça devrait faire 0. En 2013, on retrouve 3,3 millions de chômeurs. Donc on a une équation 3 moins 3 égale 3. Deux choses pour expliquer ça. Problème, effectivement, la démographie, il y a plus de gens qui sont employables, mais surtout, le recul de l'âge de la retraite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que on attaque là une seule caisse de Croizat, mais même si on croit leur sornette, savoir ce que ne dit pas l'observateur de retraite d'ailleurs, même si on leur donne raison sur le soi-disant déficit de la caisse de retraite, il est absolument évident, il n'y a aucun économiste qui peut contredire ça, que mettre la retraite à 65 ans, ce sera une explosion de la caisse d'assurance chômage. En fait, on va prendre de l'argent ici pour le remettre là. Et donc, de toute façon, c'est un calcul, évidemment, qui n'est pas économique, qui est totalement idéologique, hein, puisque de toute façon, on arrivera à une catastrophe. Alors, oui, et puis sur le fait, sur le pognon de dingue, dernier truc avant de répondre à la question de Gilles, je voudrais vraiment vous alerter sur les faux-semblants. Par exemple, on a tendance à croire que moins vous indemnisez au chômage, bah, plus les gens ils vont se bouger le cul pour trouver un boulot. Bien. Donc les libéraux ont essayé de faire des études là-dessus. Aucune étude n'a réussi à montrer qu'en dégradant les droits, on trouvait facilement du travail. En revanche, il y a plusieurs études, 6 en tout, au niveau international, 6, qui montrent que mieux les gens sont rémunérés au niveau de l'assurance chômage, plus facilement ils retrouvent du travail. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un toit, parce qu'ils sont moins stressés dans l'entretien, parce qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge à avoir absolument ce travail à tout prix. Et d'ailleurs, au niveau de l'assurance chômage, petite anecdote, ils ont essayé dans les années 90 la dégressivité. À savoir qu'ils se sont dit, pour que ces feignants de chômeurs, ils retrouvent plus facilement, qu'ils aillent plus facilement à la pêche à l'emploi, on va appliquer la dégressivité. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un an de chômage, vous allez toucher moins, puis encore moins, puis encore moins. Comme ça, ça va inciter les gens à retrouver un emploi. Bilan de cette chose-là. Les cadres supérieurs allaient assez rapidement briguer n'importe quel emploi qui n'était pas à leur niveau de diplôme, et donc empêcher ceux qui avaient un simple diplôme d'avoir cet emploi-là. Et après, avaient du temps pour monter leur boîte et retrouver. Donc c'est le MEDEF qui a dit non, on arrête ça. Parce que on augmente le taux de chômage, parce que là, le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de diplôme ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils sont concurrencés par les cadres qui retrouvent un emploi de merde, parce que, etc., etc. Et donc, c'est le MEDEF qui a demandé d'arrêter la dégressivité en disant non, on les rémunère jusqu'au bout, normalement, etc. Et bien là, Macron, dans sa réforme, a remis la dégressivité de manière totalement idéologique, puisqu'il sait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est pour faire croire aux gens que, de toute façon, les chômeurs sont des feignants et qu'on dépense au pognon de dingue pour eux et qu'encore une fois, le salarié qui est victime d'un licenciement, c'est une victime et le chômeur est un éternel coupable. Alors comment on peut s'en tirer ? Comment on peut s'en tirer ? On peut s'en tirer en luttant, mais pas en faisant des manifestations, je vous le dis tout de suite. En luttant et en attaquant très fort... ce qui les emmerde. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a osé péter notre outil de travail, à savoir, il y a eu en 2003, le Festival d'Avignon a été annulé suite à 3 jours de grève. Et ça, à l'époque, tout le monde nous a dit, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assise, c'est une catastrophe, vous allez rendre tout le monde pauvre, etc., etc. N'empêche qu'en 2004, quand se rapproche Cannes et puis le prochain Festival d'Avignon, en face, ils savent qu'on peut refaire péter tout ça. Et donc là, il nous octroie une avancée, un fonds provisoire qui rattrape tous ceux qui avaient été écartés par la réforme d'assurance chômage. Et puis après, en 2014, on recommence. Là, on nous rattaque. Et puis là, Festival de Montpellier, Printemps des comédiens à Montpellier, est en grève totale pendant un mois. Pas un spectacle. Et là, il y a Aix qui arrive, il y a Avignon qui arrive. Et là, tout le monde flippe. Et Valls dit, OK, on les met autour de la table, on trouve une solution. Et là, on a une fenêtre de tir. Et la CGT, nous on est aux tables de concertation, la coordination, après il y a des tables de négociation, la CGT négocie et on retrouve les droits qu'on avait perdus en 2003. Donc c'est possible, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Petite. C'est possible, une toute petite anecdote. En 2003, quand on mène la lutte, il y a les profs qui étaient là avec nous, à Avignon, et qui nous disent « vous ne faites pas avoir ». Nous on s'est fait avoir. On s'est fait avoir parce qu'ils avaient menacé la grève du bac. Ils avaient menacé de ne pas corriger le bac. Et finalement, ils ont craqué. Ils ont craqué sur la pression des parents, du rectorat, etc., etc. Ils disent, on a fait une connerie. On aurait dû aller au bout. On aurait dû aller au bout de cette chose-là. Donc, je crois que, effectivement, il est faux de dire que ce n'est pas possible de récupérer des droits ou d'acquérir de nouveaux droits. Mais ça passe par une certaine, effectivement, idée, je ne sais pas, révolutionnaire, mais en tout cas une certaine idée radicale. Nous, des actions, on en a fait des tonnes. On a occupé des ministères, on a occupé la télévision, on a occupé la radio, on les a fait chier jusqu'au bout, on a bloqué des spectacles, on les a emmerdés tout le temps. Ce qui fait qu'après, quand il y avait 3 Pékin intermittents du spectacle qui se pointaient, c'était comme si on avait l'armée des États-Unis qui arrivait. Ils avaient peur de nous. Intermittents du spectacle, c'était l'horreur. Qu'est-ce que vous voulez? On signe là. Voilà. Donc à un moment donné, il faut effectivement s'unir et nous on a de la chance parce que on se connaît tous, enfin c'est un petit milieu, donc effectivement on est tous conscients que l'assurance chômage on en a effectivement besoin. On pourrait se dire les 6 millions de chômeurs s'ils se battaient ils obtiendraient, oui, mais ce sont des gens qui sont dans des milieux totalement différents, qui espèrent toujours récupérer leur emploi, donc ils ne se vivent pas comme chômeurs. Nous, de fait, on a un rapport à vie avec l'assurance chômage. Donc on le sait. Mais un chômeur ne se dit pas qu'il va avoir un rapport à vie avec l'assurance chômage. Parce qu'il espérera toujours retrouver un emploi, surtout que le fait de se dire chômeur, c'est une honte pour lui. Voilà pourquoi il ne se bat pas. Et c'est vraiment dommage, parce que je vous assure que si jamais les millions de chômeurs avaient été dans la rue pour imposer à Borde, là, d'arrêter son massacre, ça aurait marché. Ça aurait marché. Parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Mais bon, voilà.
Bon, donc maintenant que tout le monde est bien conscient que c'est dans le rapport de force que ça se passe, toutes ces histoires-là, et qu'on arrête de croire au consensus et que tout le monde va se mettre d'accord en se mettant autour d'une table, Bernard, toi, ta solution, l'idée du salaire à vie généralisé, ça se passerait par la cotisation, ça se passerait par la fiscalisation, c'est quoi ? Parce qu'on a eu ce débat aussi où... au sortir de la guerre, il y en a qui ont confié la protection sociale à la cotisation, c'est-à-dire prendre une part de la valeur produite qu'on met dans un pot commun, et d'autres pays qui ont décidé de fiscaliser, c'est-à-dire de protéger leurs citoyens par l'impôt, comme le système de protection santé en Angleterre. Donc toi, Bernard, comment tu mets en œuvre ton projet et comment on va t'aider à le mettre en œuvre ? Parce que tout seul, il faut quand même qu'il y ait un rapport de force favorable.
D'abord, d'un point de vue du calcul macroéconomique, un salaire pour tous les plus de 18 ans, pour les 50 millions de plus de 18 ans, un salaire qui serait compris dans un rapport de 1 à 3 et qui démarrerait... 1 à 3, pourquoi ? Parce que c'est le rapport, ce qu'on appelle le rapport interdécile des conventions collectives les mieux négociées et de la fonction publique, c'est-à-dire le salaire moyen des 10% les moins payés et le salaire moyen des 10% les mieux payés. Quand on fait le rapport, il est de 1 à 3. Alors, ce n'est pas le rapport entre le plus faible et le plus haut salaire, bien sûr. Hein, nous sommes le rapport interdécile, mais nous, ce que nous préconisons à Réseau Salariat, c'est que ce rapport interdécile devienne le rapport entre le plus haut et le plus bas salaire, et qu'on ait une hiérarchie des salaires de 1 à 3, donc qui démarre à 1 700 €, qui est le SMIC revendiqué, et 1 700 € net à 18 ans, et qui puisse aller jusqu'à 5 000 €. Assurer un salaire dans cette fourchette à tous les plus de 18 ans, et ça ne pose aucun problème de financement. Si on prend la statistique nationale, ce qu'on appelle la comptabilité nationale, le revenu disponible, c'est-à-dire les revenus des ménages après impôts, les revenus directs, soit salaire, soit bénéfices des travailleurs indépendants, après impôts, plus les prestations sociales, on a 1 500 milliards. Ça, c'est ce qui est affecté aux revenus aujourd'hui, 1 500 milliards. Si vous divisez... 1 500 milliards par 50 millions de plus de 18 ans, ça vous donne 30 000 € par an, 2 500 € net par mois. Il est en moyenne, dans une fourchette qui irait de 1 700 à 5 000 €. Donc le financement ne pose aucun problème. Il faut arrêter de nous bassiner avec cette histoire comment on finance. Mais... est-ce que même la question est bien posée ? C'est ça la question, c'est que nous pensons... Oui, vas-y. Nous sommes complètement catéchisés depuis l'enfance à la religion capitaliste, qui est la seule religion qui nous emmerde, fondamentalement, et la seule qui ne soit pas séparée de l'État. Et donc, nous sommes nous-mêmes. Moi, j'ai mis 40 ans pour m'en débarrasser, donc c'est quand même long. Nous sommes nous-mêmes convaincus qu'il faut d'abord produire avant de distribuer. On est convaincus de ça. Que le salaire, ça se mérite, enfin tout ça, tout cela. Et qu'on ne peut pas distribuer un truc qui n'a pas déjà été produit. Là, on est dans l'aliénation complète à une croyance capitaliste qui est la suivante. Pour avoir enseigné l'économie pendant 30 ans à l'université, je connais le catéchisme par cœur. Pour produire, il faut qu'il y ait une avance, et cette avance, c'est l'avance en capital. Avance en capital... qui va permettre d'acheter de l'investissement et des matières premières, condition de la production de biens ensuite finaux. Cette avance en capital, elle s'opère soit par une création monétaire par endettement, par crédit, soit par l'utilisation du profit de cycles précédents accumulés dans des titres financiers qui vont être prêtés ou qui vont être... que les actionnaires vont apporter à l'entreprise.
Donc, on pose que, avant même de produire, les travailleurs sont endettés. Ils sont endettés soit auprès d'un créateur de monnaie, soit auprès d'un prêteur ou d'un actionnaire. Et cet endettement, il va falloir le rembourser sur la vente des produits que l'on a créés grâce aux biens d'investissement, aux biens de consommation, qu'on a, aux biens intermédiaires, consommation intermédiaire qu'on a mobilisé pour faire des biens finaux. Et donc, les travailleurs endettés avant même de travailler, produisent. La vente de cette production, d'abord, permet de rembourser le prêteur, c'est-à-dire de renforcer nos chaînes. Hein, chaque fois qu'on rembourse le prêteur, on rembourse son pouvoir sur nos vies, bien sûr. Payer ses dettes, ça ne libère pas du tout. Hein, ça rend encore plus esclave, bien sûr. Hein. Et puis, à la fin, on est payé. Le salaire, il arrive à la fin. Et on a tellement intériorisé ça qu'on n'imagine pas que le salaire puisse être le préalable et non pas le résultat aléatoire. Et qu'on n'imagine pas non plus que l'on puisse travailler sans être endetté. Pour qu'il y ait production, il ne faut que du salaire. C'est avec du salaire que l'on va extraire des matières premières. C'est avec du salaire que l'on va construire des outils, qu'on va créer des logiciels, que l'on va produire de l'énergie. Et c'est avec du salaire que l'on va produire, avec ces matières premières, cette énergie, ces outils, des produits finaux. Il ne faut que du salaire, parce qu'il ne faut que des travailleurs et des ressources naturelles pour produire. Nous n'avons absolument pas besoin de capitalistes. Absolument pas besoin. Sauf si nous sommes adeptes de la religion de la chose, mais sinon, pas besoin du tout. Et donc, la seule avance nécessaire pour qu'il y ait des travailleurs, c'est le salaire. Donc, comment on finance ? On finance en créant de la monnaie et en la distribuant à tous les plus de 18 ans. Et ça suffit.
Il y a un petit côté religieux aussi, là. Vous avez vu ?
Évidemment, cette proposition qui est très simple doit franchir le fossé des idées reçues. Hein, et puis du « j'en ai chié qu'ils en chient », enfin, etc., etc. Vous comprenez, tout ça n'est pas si simple. Hein, mais devenons athées de la religion capitaliste. Hein, c'est quand même très important, cela. Hein. Nous n'avons pas besoin de prêteurs, nous n'avons pas besoin d'avance en capital. La monnaie peut être une monnaie qui ne génère aucune dette. Et en plus, nous en avons fait la preuve de façon magnifique dans les années 60. Hein. Nous sommes à la fin des années 50 avec un appareil de soins qui est égal à zéro, en gros. Et les excédents, d'ailleurs, de l'assurance maladie financent le déficit des allocations familiales qui sont le cœur de la sécurité sociale encore dans les années 50. Les soins de ville ne sont pas remboursés puisqu'il n'y a pas de conventionnement. Le conventionnement des soignants de ville démarre en 1961. Les hôpitaux, jusque dans les années 40, sont réservés aux insolvables. Si vous êtes solvable, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital public. Autant dire que la technicité des hôpitaux est assez médiocre. Et vous allez avoir une mutation, mais formidable, alors discutable par certains aspects, évidemment, mais une mutation formidable de la production de soins dans les années 60, hein, lorsque les travailleurs, comme le rappelait Samuel, sont encore en train de gérer le régime général. puisque la grande innovation de 1946, c'est que toute la sécu qui existait, qui était pléthorique, hein, en 1945, vous avez 1000 caisses de sécu, vous avez 70 000 salariés dans les caisses, la sécu, elle était créée entre 1880 et 1940 à l'initiative des patrons. Donc elle est pléthorique. Hein. Ce qui se passe en 1945, c'est rien, il ne se passe rien. En 1946, les communistes subvertissent cette sécurité sociale, et en particulier en confiant aux travailleurs eux-mêmes, pas totalement, parce que la CGT est battue par les ordonnances de 1945, qui prévoit un quart de patron et la moitié seulement de travailleurs pour les caisses d'allocation familiale, mais enfin, trois quarts de travailleurs pour les caisses maladie vieillesse, c'est déjà un très très gros progrès. Et de 1947 à 1967, les travailleurs ont un rôle réel dans la gestion de ce qui représente l'équivalent du budget de l'État à partir des années 60. Là aussi, nous sommes avec un déjà là formidable. Nous avons fait la démonstration que les intéressés peuvent gérer l'équivalent du budget de l'État et que ça marche. Et que l'étatisation qu'a rappelé Samuel, ça ne marche pas. On voit bien dans quel état est le système, j'allais dire éducatif, mais c'est vrai aussi, en tout cas le système de santé aujourd'hui. Et l'étatisation, c'est toujours la réponse capitaliste à la démocratie économique quand elle est conquise. N'attendons rien d'un bon État. Ça n'existe pas. Et donc, construisons en revanche un État communiste, c'est-à-dire un État dans lequel les fonctions collectives ayant force de loi sont assumées par les travailleurs eux-mêmes, par les citoyens eux-mêmes. Enrichissons la citoyenneté de la délibération sur ce qui est produit, sur le travail. Et c'est pour cela que cette citoyenneté enrichie de la délibération sur ce qui est produit s'exprime dans un droit qui est le droit au salaire. Hein, de même que le droit de vote est l'expression de la responsabilité citoyenne sur la chose publique. Eh bien, incluons dans la chose publique la production, le travail, qui aujourd'hui est exclu de la politique. Hein, la politique est exclue des entreprises, est exclue de la création monétaire, etc., et enrichissant la citoyenneté d'un droit politique de salaire. Et donc, lorsque le régime général est encore géré par les travailleurs, la mutation de l'appareil de soins va être faite sans appel au marché des capitaux. Alors, dans les années 60, on transforme un hospice en hôpital avec des lits actifs, en maternité, etc., ou on crée un hôpital en démarrant par les CHU, on lit l'université et l'hôpital. C'est un acte de volontarisme inouï quand on sait combien les hôpitaux étaient des lieux de déréliction absolue. Ça devient des lieux liés à l'université, dans lequel l'élite du corps médical va être engagée. Et des soignants, enfin infirmiers, etc. Eh bien, cet investissement considérable, hein, on en crée ou on en transforme un par jour dans les années 60. Un par jour. Aujourd'hui, on en détruit un par jour sans doute. Enfin, on transforme un hospice des hôpitaux, en EHPAD des hôpitaux locaux, en fait, etc. Mais on l'a fait sans appel au marché des capitaux, sans partenariat public-privé, sans appel même massif au crédit public, à la Caisse des dépôts et consignations. On l'a fait par une hausse des salaires. Les années 60 sont une année de forte hausse des salaires, mais pas uniquement par une hausse du salaire qui va au compte postal ou au compte bancaire. Par une hausse du salaire dans une monnaie, la cotisation, le salaire socialisant la cotisation, une monnaie qui ne peut être dépensée qu'auprès de professionnels conventionnés et qui va permettre à l'assurance maladie d'orienter la production déjà, non pas par une planification plus ou moins tombée d'en haut, hein, mais par une négociation avec les professionnels sur les actes, sur la tarification des actes, etc. Et puis, de ne conventionner que des professionnels correspondant à un certain nombre de critères, par exemple, justement, être sans but lucratif, ne pas être, s'agissant des cabinets de médecins, la propriété de non-médecins, ne pas être la propriété de groupes capitalistes, etc., etc. Donc il y a des conditions extrêmement importantes qui sont posées au conventionnement, y compris le conventionnement des hôpitaux. Et Et on ne fait appel pour financer l'investissement à la subvention. L'assurance maladie, elle va subventionner. Les soignants n'auront rien à rembourser. Et oui, c'est très différent. Quand vous êtes soignant et que vous n'avez pas à rembourser la dette de l'hôpital, ben vous soignez. Quand vous êtes soignant et que vous avez à rembourser la dette de l'hôpital, vous avez perdu le pouvoir sur votre travail. C'est les gestionnaires qui ont pris le pouvoir. Et ils vous imposent des protocoles à la place de la clinique. Nous avons eu pendant des décennies le meilleur système de santé du monde. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Moi, il m'arrive d'avoir peur d'aller à l'hôpital pour me retrouver en face de quelqu'un qui obéit à un protocole et non pas qui ne fait pas de la clinique. Parce que les gestionnaires ont pris le pouvoir. Parce que l'hôpital est endetté. Parce que nous avons perdu la mémoire. Je dis bien perte de mémoire, puisqu'il n'y a aucune revendication à gauche, aujourd'hui, et dans le syndicalisme de classe, pour une hausse massive du taux de cotisation. Aucune. Aucune. Nous avons perdu cette expérience. Évidemment, personne ne nous a encouragé à garder cette mémoire, évidemment, mais nous avons perdu mémoire de ce miracle qui a été de financer un investissement considérable sans faire appel à la dette. Sans aucune dette. Ben continuons. Il n'y a aucune raison que nous nous endettions pour pouvoir travailler. Et ces personnels hospitaliers ont été des fonctionnaires libérés du marché du travail. On a mis en place dans les années 60 une production communiste de soins. C'est une production communiste. De même que le régime général géré par les travailleurs, c'est un État communiste. Fonction collective gérée par les intéressés eux-mêmes. Nous sommes là dans des avancées considérables qui, parce qu'elles n'ont pas été lues pour ce qu'elles sont, communistes, n'ont pas été généralisées. On les a lues comme des espèces de situations non économiques même. On a parlé de dépenses de santé, et non pas de production de soins. Alors, on ne peut pas généraliser une dépense, évidemment. Alors qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de généraliser ce que nous avons su faire si magnifiquement en finançant l'investissement sans dette et en ayant des travailleurs qui ont un salaire lié à leur personne à travers une qualification personnelle et non pas lié à leur emploi ou à la tâche qu'ils sont en train de faire. Encore une fois, nous avons dans notre histoire sociale des trésors qu'il faudrait maintenant que nous actualisions et que nous généralisions.
C'est marrant parce que c'est vrai qu'on doit, Samuel le disait, mais on doit lutter contre la dialectique, on doit lutter contre le catéchisme dont parlait Bernard. Et moi, j'en ai fait l'expérimentation souvent avec les interventions avec le film La Sociale, dans lequel intervenait Bernard, dans les établissements scolaires. Et en fait, c'est tellement facile d'expliquer ce que c'est que la cotisation, alors que c'est vu comme une charge, et ne serait-ce qu'en expliquant la fiche de paye. Et auprès des jeunes, ça marche super bien. C'est tellement facile d'expliquer aux gens que, en mettant une partie de nos richesses en commun dans une boîte commune et qu'on partage derrière, on n'a pas besoin de faire appel à d'autres. Et quand on se groupe, on est vachement plus fort. Et c'est une idée qui est tellement belle, la cotisation, qu'auprès des jeunes, ça marche super, quoi. Sauf qu'effectivement, ce n'est pas l'histoire qu'on leur a racontée. Moi, je leur disais, quand vous faites un cadeau en commun et que vous cotisez tous ensemble, vous achetez quelque chose de plus sympa. Et puis, c'est quand même plus sympa de faire quelque chose ensemble que de faire chacun dans son coin. Et ça, ça résonne beaucoup. Mais c'est vrai que c'est là qu'on voit le pouvoir de séparation qu'a la dialectique permanente de mettre les gens les uns contre les autres, parce que c'est vrai que cette histoire-là n'est jamais racontée comme ça, et que la cotisation sociale, dans la dialectique, c'est le patronat qui a réussi à introduire le mot de charge sociale, parce qu'une charge, c'est Quand on parle de cotisation, c'est quelque chose de beau, c'est du partage. Quand on parle de charge, ça nous pèse sur les épaules. Et pourtant, c'est pas si difficile de décrypter ça, de faire ce travail, en tout cas auprès des jeunes, auprès des gens, de réexpliquer les choses, de partir de la base. Mais effectivement, on fait face à un mur de communication, de dialectique, qui est quand même bien bien organisé. Mais c'est très très rassurant, parce qu'il faut quand même être positif, de voir que quand on explique simplement les choses, finalement, eh ben, la cotisation sociale, l'impôt, ça reprend ses lettres de noblesse auprès de jeunes qui, pour le coup, dans la difficulté de s'installer, vivent ces situations par l'expérimentation, pas forcément par idéologie, mais par l'expérimentation, où aujourd'hui, ben, y a de plus en plus de colocations et qui sont pas subies, mais en tout cas, on trouve des solutions collectives pour faire face à toutes les difficultés, et ils arrivent, alors c'est pas structuré forcément politiquement, mais ils arrivent quand même à survivre et à mettre concrètement, à organiser concrètement le rêve de la cotisation généralisée, on va dire. T'avais deux anecdotes, Samuel,
oui,
vite fait.
Vraiment,
et après, on vous laisse la parole.
Trois minutes pour finir de manière plus légère. Je voulais quand même rendre hommage à mon réalisateur, parce que ça va parler de toi. Mais parce qu'on a quand même un film qui sort le 19 octobre.
Oui.
Quand même, non, parce qu'il signe des bouquins, mais nous, on peut aussi faire la promo.
Mais surtout, ce qui est vachement bien, c'est quand même que dans la reprise en main, la fiction qu'on a fait ensemble, c'est quand même le directeur d'une boîte de fonds d'investissement. Donc
il est beau, hein. Et bientôt, je fais un nazi pour France Télévisions. Et c'est vrai en plus. Deux trucs par rapport à les expériences au ministère, aux anecdotes. Les deux ont un rapport avec Gilles. Parce que le premier concerne un personnage qui s'appelle Denis Kessler, je crois, qui est et dans la sociale et dans les jours heureux.
Et dans Walter Rotton en résistance.
Et dans,
personnage
voilà, récurrent. Il est partout. Et donc, quand il y a cette histoire du milliard qui sort, il y a le ministre qui me dit « Mais moi, je veux bien te croire, mais je voudrais qu'on ait un arbitrage. Est-ce que tu es d'accord pour rencontrer Denis Kessler ?» Parce que c'est quand même lui le penseur de tout ça. Et donc, voilà, je voudrais avoir tes arguments, ses arguments, etc. Ok, très bien. Il voulait bouffer du pâté en croûte. Il est fan de pâté en croûte. Donc, il y avait du pâté en croûte.
Ah bon.
Et on dit bah, « Voilà. » Donc, l'autre, il attendait le match, là, entre nous deux. Alors, je lui dis « Bah, écoutez... »
C'était qui, le ministre?
Hein, c'était Don Giovanni.
Ah ouais.
Et je dis, écoutez, voilà, vous n'allez pas me dire que cette histoire de milliards, c'est totalement bidon. On est d'accord, c'est totalement bidon. Et le mec me regarde et me dit, vous avez tout à fait raison, mais l'important, c'est pas que ce soit vrai, l'important, c'est que tout le monde le croit. Maintenant, il est où le pâté en croûte? Voilà, ça s'est passé comme ça, en une phrase. L'important, c'est pas que ce soit vrai, l'important, c'est que tout le monde le croit. Boum, terminé les discussions. Vous avez raison, boum, donc il n'y a pas eu de match. Bon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième anecdote, elle était justement sous Elisabeth Borne, il n'y a pas longtemps, où je vais avec les intermittents de l'emploi pour défendre leur cause, pour qu'ils aient une AD blanche, pour qu'ils aient une continuité d'assurance chômage, qu'ils n'avaient pas. C'était tous des gens qui étaient en train de crever, là. Et puis pour éviter cette réforme. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, je dis, quand je pense qu'on est dans la maison d'Ambroise Croizat. Et là, parce qu'on était au ministère du Travail. Et là, il y a les trois, il y a le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le responsable de l'assurance chômage, et il y avait un stagiaire ENA. Les quatre me regardent avec des yeux de bulot, on peut le dire, ils me regardent comme ça. Et j'étais avec un ami qui était responsable du collectif des précaires de l'hôtellerie et restauration, qui s'appelle Hassen, qui est d'origine kabyle, et avec qui j'avais fait regarder la sociale de Gilles Perret, et qui est devenu un fan de Croizat. Le gars, il a tout lu sur Croizat. Il pourrait être prof d'université sur Croizat. Le gars, il béton sur Croizat. Et là, je vois les quatre, et je leur dis, mais vous savez qui est Ambroise Croizat, quand même? Et là, sur les quatre, ils me regardent, il y en a trois qui baissent les yeux, et le stagiaire ENA qui dit, j'en ai entendu parler, de nom. De nom. Alors je dis, bah, je vais laisser la parole à Hassen. Donc Hassen, il a fait un topo de 7-8 minutes, mais impeccable. Sur Croizat, leur racontant le début, le machin, le truc, à quelle année il est arrivé, les mecs étaient là, ils regardaient, hein, voilà, ça finit. Et puis avant de partir, je leur dis, écoutez, est-ce que vous pouvez prendre note, une chose que j'ai vraiment, vraiment, c'est vraiment essentiel pour vous, est-ce que vous pouvez prendre note? Donc il y en avait deux qui étaient avec des iPads, les autres avec un stylo, est-ce que vous pouvez prendre note? Voilà. Tout membre de ministère des Affaires Sociales, alors il y en a un qui notait, puis après il allait dire, mais c'est quoi ce truc-là? Devra impérativement, donc je répète, impérativement, avoir vu du début à la fin le film La Sociale de Gilles Perret. Et là, j'en vois un qui est le seul qui continuait à écrire, le stagiaire ENA, parce que les autres, ils avaient compris que c'était un peu une embrouille. Et le seul qui écrivait à écrire, et je vois qu'il hésite, je lui dis Perret, P-E-2-R-E-T, comme le chanteur. Et là, j'ai chanté tout, vous serez tous sur le zizi. Et j'ai dit, maintenant, à scène, on se casse. Ouais. On est parti comme ça. Mmh. Voilà.
Mmh. Merci.
Bon, on va vous laisser la parole quand même. Donc, il y a des micros qui circulent. Vous avez l'habitude. Vous levez la main. Normalement, il y a Stéphane qui va passer les micros. Non, c'est prêt. Donc, voilà. Stéphane, c'est lui, c'est le monteur de la sociale. Et on est vachement riche depuis que la sociale a été vendue au ministère du Travail. Alors, qui a des remarques des... Ah, madame. Je vois pas bien, madame.
Merci, bonjour.
Vous pouvez vous lever, ou je ne sais pas quand vous levez la main, enfin quand ça se... Ouais, merci.
J'ai une question, moi je suis enseignante fonctionnaire. Est-ce que vous avez une idée de la sauce à laquelle on risque d'être mangé pendant le prochain quinquennat ? Emmanuel Macron ayant parlé de vouloir remettre en cause l'emploi à vie, puisque c'est comme ça qu'il parle du fonctionnariat.
Alors, qui se lance ? Qui a les informations ? Qui est un proche d'Emmanuel Borne ? Bernard.
Non, ben, c'est tout à fait évident. Hein. Les choses sont déjà commencées. Prenez cette loi qui est restée sous silence syndical, je dois dire, hein, et c'est ça qui m'inquiète un peu, ou silence de FI, silence du Parti communiste, silence du NPA. La loi d'août dernier qui suspend les fonctionnaires soignants non vaccinés suspend aussi leur traitement, ce qui est une atteinte considérable au statut de la fonction publique. L'article 3 de la loi Le Pors. L'article 3 de la loi Le Pors sur la fonction publique, Le Pors, autre ministre communiste, donc qui reprend les dispositifs de Thorez en 46, en 83, en étendant la fonction publique d'État, mais aussi territoriale et hospitalière. Cet article 3 dit « Tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement », bien sûr. Puisqu'encore une fois, le traitement n'est pas lié au poste, mais à la personne. C'est cela que veut absolument supprimer la classe dirigeante. Hein. Alors, il y a eu des protestations contre le fait qu'on ôte comme ça 15 000 soignants alors qu'on en manque, contre le fait que ces soignants n'aient pas de salaire, tout ça est inadmissible. Il y en a eu, je n'ai vu aucun syndicat ou parti de gauche se battre au nom du statut de la fonction publique. C'est-à-dire que cette conquête énorme qui consiste à dissocier le salaire de la tâche, elle n'est pas lue du tout. Hein. Et c'est ça qui m'inquiète sur le devenir de bagarre s'il n'y a pas un déplacement de l'action syndicale. Hein. Alors, officiellement, les syndicats sont contre les primes, mais il n'empêche qu'ils négocient des primes. La plus scandaleuse étant le paiement par l'employeur de la mutuelle. Hein. C'est qui légitime la mutuelle, hein, alors que nous nous battons pour le 100% sécu. Il y a comme ça une espèce de perte idéologique, hein, qui sur la question, encore une fois, un fonctionnaire est titulaire de sa qualification et donc son salaire est lié à son indice. Hein, et il n'y a pas de prime, il n'y a aucune légitimité pour des primes. Prenons maintenant la question de la montée en puissance de direction. Hein, voilà que les directeurs d'école deviennent des directeurs, alors qu'il n'y avait jusqu'ici aucune hiérarchie entre les enseignants à l'école primaire. Prenons la montée en puissance des directions dans les collèges et lycées. Le fait que c'est peut-être les chefs d'établissement qui vont noter qu'il n'y aura plus d'inspection. qui vont pouvoir constituer leur équipe au nom de l'équipe pédagogique. Alors que par définition, un fonctionnaire n'a pas d'employeur. C'est absolument fondamental, ce point. Et le chef d'établissement n'est en aucun cas un employeur. Nous avons à l'université la même dérive, avec des présidents d'université qui vont pouvoir maintenant embaucher des professeurs qui ne seront pas passés par le processus de qualification du CNU. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une attaque qui ne sera combattue que, un, si nous arrêtons de dire que les fonctionnaires sont exploités comme les autres, dans une espèce de discours misérabiliste qui est omniprésent dans le discours aujourd'hui syndical. Non, les fonctionnaires ne sont pas exploités comme les autres, certainement pas. C'est un conquis révolutionnaire. Et c'est un conquis révolutionnaire qui n'est pas lié non plus à des missions spéciales, comme le disait très justement Samuel. Il n'y a pas d'exception culturelle en matière de statut du travailleur de l'intermittence. Alors si on dit que les fonctionnaires ont des missions spéciales, ça veut dire que les autres sont des cons. Je ne vois pas très bien comment on peut fédérer à partir de l'idée de mission spéciale. Non, il n'y a aucune mission spéciale. Il y a une conquête considérable qu'il faut étendre à tous, non pas tous fonctionnaires, il ne s'agit pas de travailler tous pour l'État, ça n'a pas de sens, tous avec un salaire lié à la personne et non pas au poste ou à la tâche. Seule une bataille de généralisation du statut des fonctionnaires permettra d'éviter que, après que ait été mis en extinction le statut des cheminots, des électriciens et gaziers, soit mis en extinction le statut des fonctionnaires.
Il est fort, hein, il a réussi à replacer. Alors, une autre question.
Ouais, bonsoir. Oui, c'est bonsoir. Fabien du Réseau Salarial et de Savoie et de l'association Émancipée à Chambéry. Merci beaucoup.
Pour ceux qui, excusez-moi, je te coupe, mais pour ceux qui ne connaissent pas le réseau salariat, en fait, c'est un réseau qui, justement, a été créé par Bernard et ses amis, et vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Internet. Ça s'appelle donc Réseau Salariat.
Voilà. Et puis, il y a un stand ici, qui est tenu ici, par Fabien, entre autres.
Pardon.
Eh bien, merci pour ce débat qui va au fond des choses, au fond du problème, y compris les problèmes écologiques, pour être évidemment réglé en grande partie par la cotisation et attaché droit à la personne sortir de l'emploi. Et je voudrais juste revenir sur un truc, juste pour que tout le monde comprenne, parce que le petit proverbe de chacun selon ses moyens, chacun selon ses besoins, il prête à confusion. Donc la première partie est fausse, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on ne cotise pas. En fait, personne ne cotise. Ce sont uniquement les entreprises qui cotisent et pas les salariés. Peut-être que vous pouvez préciser des choses là-dessus pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, la deuxième partie, oui, évidemment, est juste, mais la première partie prête à confusion parce que on nous fait haïr la cotisation en nous la faisant passer comme un impôt sur le revenu. Voilà. Donc Bernard le dira beaucoup mieux que moi, mais c'était juste pour préciser ce point-là. Merci beaucoup.
Oui, en effet, il faut faire attention. Beaucoup de la propagande aujourd'hui sur la hausse du pouvoir d'achat repose sur l'idée qu'on va réduire les cotisations réduire les cotisations salariées. C'est comme ça que ça s'est fait en 97, lorsque vous avez une suppression de la cotisation salariée à l'assurance maladie. Elle est vécue comme une hausse du pouvoir d'achat. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention. C'est peut-être pas ce que tu voulais dire, Fabien, mais il faut faire extrêmement attention au fait que les cotisations, c'est un élément du salaire qui relève de ce qu'on appelle la répartition primaire. C'est-à-dire que c'est la valeur ajoutée de l'entreprise. Une partie de cette valeur ajoutée va au salaire sous une forme directe ou sous une forme socialisée dans la cotisation. C'est la valeur ajoutée qui finance cela. Et c'est donc fondamentalement le travail des travailleurs, bien sûr. Mais ça n'est pas quelque chose qui est pris sur le salaire, c'est quelque chose qui s'ajoute au contraire au salaire direct. Il faut faire très attention à toute proposition de baisse des cotisations. C'est une proposition qui réduit en réalité les salaires et qui fait qu'ensuite, en aval, il y a moins de possibilités de se soigner, moins de possibilités d'avoir des pensions, du chômage, etc. Donc, la cotisation n'est pas une ponction sur le salaire, c'est un ajout au salaire. Et toute suppression de cotisation est une diminution du salaire, qu'elle soit patronale ou salariée, cette cotisation.
Oui, je voudrais enchaîner. Je ne sais pas si tu as été très clair, mais si, il existe des cotisations salariales et des cotisations patronales. C'est là où on s'est fait avoir avec l'assurance chômage, c'est qu'ils ont supprimé les cotisations salariales, ils ont remplacé ça par la CSG au nom du pouvoir d'achat. D'ailleurs, je voudrais quand même mettre le point sur quelque chose, c'est qu'on ne parle plus de droits sociaux, mais on ne parle que de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a transformé un citoyen en consommateur, voilà, dans le langage. Et puis, sur la transition écologique, je te rejoins absolument. C'est un point qu'on aurait pu développer. Mais je vais vous raconter une petite anecdote, mais qui est très révélatrice, de la bataille, entre guillemets, entre les verts et les rouges. J'étais avec Extinction Rebellion devant l'usine Lafarge, parce que, Lafarge pollue, Lafarge fait des exactions, etc., etc. Mais je leur ai dit, les gars, si sur votre acte, vous mettez rien sur les droits sociaux, si vous apportez aucune solution, comment voulez-vous qu'un salarié de chez Lafarge, même très conscient de bosser dans une usine polluante, etc., etc., comment voulez-vous qu'il accepte de lâcher son boulot ? Il acceptera de lâcher son boulot si, effectivement, il y a une forme de continuité de revenus, quoi qu'il arrive. Et il est évident que nous ne ferons jamais la transition écologique sans continuité de revenus. Ce sera impossible. Et là, il y aura toujours une bataille entre, effectivement, les verts qui diront « faut fermer l'usine parce qu'elle pollue » et les rouges, entre guillemets, qui diront « non, au nom de l'emploi, on maintient l'usine ». Voilà. Il y aura toujours cette bataille-là. Et on la voit dans plein d'endroits. Et donc, la seule solution, c'est de dire aux salariés « écoute, tu bosses pour une boîte de merde, d'accord ? Donc, on continue d'assurer ton salaire et puis, tu vas te former pour bosser dans une boîte qui va assurer ce qu'on pourrait appeler la transition écologique, etc., etc. Mais effectivement, l'idée, cette idée-là de salaire attaché à la personne, ou en tout cas l'idée d'un droit continu, est la seule idée compatible avec une transition écologique. Parce qu'on ne foutra pas des gens comme ça qui mettront des mois et des mois et des mois et des mois à se former. On ne réformera pas comme ça en disant on va fermer tout ce qui est peu loin. Là, vous aurez exactement, évidemment, tous les syndicats et le copain Ruffin y compris qui diront non, hé, les gars, eux, ils ont besoin de bouffer. Ça va faire des drames sociaux, des drames humains. Donc, effectivement, on a absolument besoin de ça.
Là, il y a une question ici. Après, ce serait bien que ce soit des questions posées par des femmes, les trois prochaines.
Là. Après.
J'ai deux questions. La première, c'est...
Vous êtes où, pardon ?
C'est où, le micro ?
Ah, pardon, tout au fond. D'accord. Là-bas. Bernard, tout au fond. OK.
Il y a deux questions. Donc, la première question, ça concerne les 15 000 soignants qui ont été licenciés. Si j'ai bien compris, leur statut ne permettait pas le fait qu'on lui dise tu vas dehors et on ne te paye pas. Si c'est dans les statuts, si c'est dans la loi, comment se fait-il que ce soit et qu'il n'y ait pas les syndicats, les partis ? Là, je ne comprends pas. Donc c'est la première question qui est sans doute facile à répondre. La deuxième, j'avais entendu M. Friot il y a 2 ans ici, ou il y a 3 ans. J'avais trouvé ça très très intéressant parce qu'il expliquait que le système actuel avec les cotisations, existait et ne pouvait... Enfin, c'était facile de l'étendre sur le nombre de personnes et sur des droits nouveaux, la fin de vie, etc. Donc, le discours d'aujourd'hui, je le trouve bien plus réduit. Je m'étonne. Et est-ce que votre discours a été entendu, accepté par la NUPS ou les syndicats ?
Ah oui. Alors, bien sûr. Sauf que la loi d'août repose sur une abrogation subreptice de la loi Le Pors de 83, qui là encore n'a été signalée par aucune organisation syndicale. Il y a un vrai problème aujourd'hui, parce que nous sommes en permanence dans la plainte, parce que les services publics sont dans une situation extrêmement dégradée, avec des personnels qui sont découragés souvent, voire démissionnaires. Il y a plus encore qu'avant, rappelez-vous quand même, cette votation de la Poste en 2006 ou 2007, je ne sais plus, hein, rappelez-vous la votation, où on défendait le service public de la Poste, c'est-à-dire qu'il y ait une poste dans toutes les communes, en fait, etc., etc., sans défendre la fonction publique des postiers, le statut de fonction publique, hein, qui est passé à l'as. C'est-à-dire que là, il y a une, et aujourd'hui c'est encore davantage, hein, il y a véritablement une défaillance collective sur l'enjeu révolutionnaire du statut de la fonction publique, qui s'est traduit pourtant aux yeux de tous par le maintien du salaire pendant le confinement. Nous avons tous fait l'expérience de cela, du caractère extrêmement positif du maintien du salaire. Sinon, s'il n'y avait pas eu maintien à 84% du salaire dans le privé et à 100% dans la fonction publique, mais les choses se seraient totalement effondrées. Donc nous avons fait l'expérience de ça et pourtant, nous n'en sommes pas encore, hein, tellement nous avons été encore une fois biberonnés à l'idée que le salaire, ça arrive après la production, en fait, etc., etc., que nous n'assumons pas la nécessité qui, en plus, comme l'a dit très justement aussi bien Fabien, que Samuel, la bifurcation écologique est impossible tant que les droits ne sont pas liés à la personne. Moi, je n'irai pas faire la morale aux salariés de Fessenheim, d'accord ? Je n'irai pas leur faire la morale, d'accord ? Tant que les salaires ne seront pas un droit politique de la personne, toute bifurcation écologique est impossible. Et donc, mais l'enjeu, c'est de généraliser le statut de la fonction publique. Le généraliser. Sur le second point, je vais faire du teasing pour la revue Salaria, qui est une revue de l'Institut européen du salariat, dont le premier numéro, vous pouvez aller chercher sur IES, Institut européen du salariat. La revue en ligne Salaria, mais son premier numéro papier qui paraît au Croquant en septembre prochain, numéro 1 de Salaria, il y a un article qui conteste, hein, j'y ai fait allusion très brièvement, hein, la proposition de la gauche de gauche aujourd'hui, hein, qui dit nous allons attribuer un contrat de travail à toute personne. Un contrat de travail ou de formation à toute personne, et assurer la continuité du salaire en attribuant un contrat de travail à toute personne. C'est une immense régression par rapport à la fonction publique, hein, où ce n'est pas le contrat de travail qui décide des droits, mais la qualification de la personne elle-même. Ce que nous avons attribué à la personne, ça n'est pas un contrat de travail, ce que nous avons attribué à la personne, c'est une qualification et le salaire qui va avec. Et dans une optique d'enrichissement de la citoyenneté, comme je l'ai dit, hein, le droit de qualification, le droit de salaire, doit devenir un droit qui, à côté du droit de vote et d'éligibilité, enrichit la citoyenneté si nous ne voulons pas que nos citoyennetés progressivement se délitent dans pas grand-chose.
Ok. Quant au fait que Bernard se serait un petit peu radouci en... Je crois que la forme de la dernière réponse a répondu à ta question. Je crois. Madame, il y avait une dame devant.
Ah. Bonsoir.
Elle avait demandé avant, mais bon.
Bonsoir. Je n'irai pas pour longtemps. Je suis retraitée. Vous rappelez la CSG qu'on devait ponctionner sur les grandes retraites. Moi, j'ai une retraite de misère. J'ai 830 euros par mois, la retraite CARSAT. La retraite AG-ARCO 109 euros par mois. En 2018, on m'a enlevé sur ma CARSAT 30 euros. Sur mon Argi-Arco, 5 euros. Calculé, je travaillais à l'époque, je faisais du travail à domicile à l'époque. Ça me permettait de vivre juste au-dessus de l'eau. Maintenant, comme il y a eu le Covid-19, je travaille chez des gens et puis je n'ai pas pu continuer parce qu'ils n'ont pas pu m'embaucher à cause des restrictions sanitaires. Au milieu de l'année dernière, ils m'ont dit, madame, c'est plus la peine, on vous laisse vous partez à la retraite. Donc, je n'avais plus rien d'autre que ma retraite. J'ai une fille qui me verse tous les mois 100 euros. Et alors, vous voyez le compte de ce que ça fait. Alors, quand je vois des grosses actionnaires dans des grosses entreprises, pour ne pas les nommer, LVMH et les consorts, qui peuvent se permettre de dilapider de l'argent parce que M. Macron leur fait des cadeaux immenses et nous, le petit peuple, comme on dit vulgairement, on est obligé de gratter pour pouvoir s'en sortir. Et voilà la situation dans laquelle on est. Et je vais vous parler de quelque chose que les gens ici vont peut-être sauter sur leur chaise. J'ai acheté le livre, l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Et dans son encyclique, il dénonce ce qu'on appelle le ruissellement. Il a dit que c'est une chose la plus immonde qui puisse exister. Parce que le ruissellement n'existe pas. Voilà.
Merci pour votre témoignage. Juste une petite remarque, c'est vrai que chez les gens les plus fragiles ou qui ont les revenus les plus bas, ils connaissent leur pension et leur salaire à l'euro près. Ce n'est pas toujours le cas pendant toutes les classes sociales. Et c'est vrai que quand on a fait le film avec François Ruffin, Debout les femmes, on était toujours frappé par cette précision des chiffres. Et quand on se souvient de la suppression des APL et des 5 euros, je ne sais pas si vous vous souvenez, et tout le monde disait « mais qu'est-ce que c'est que 5 euros ?» Je pense que vous savez ce que c'est que 5 euros. Quoi. Voilà. Alors, une autre...
Donc, je disais que
avec un micro, non? Ouais. Bah, t'en as un à côté de toi.
Prends un micro. Non, prends un micro.
Oh, c'est pas possible, c'est indiscipliné.
Mais
bon,
non, c'est
alors.
Que j'aime pas.
Ouais, mais après, tu chantes comme ça.
Voilà.
Ouais.
Donc, voilà. Nous sommes ici un mouvement qui s'appelle le CNNR, le Conseil National de la Nouvelle Résistance. Et si je me tourne vers vous, c'est que nos intervenants sont à l'origine, au départ de la création de ce mouvement, donc je préférais me tourner vers vous, eux, ils connaissent. Et donc, je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement, nous avons un stand, vous pourrez venir vous intéresser, mais là, j'ai envie de vous inviter à quelque chose. Alors, pour paraphraser un certain Marcel, nous proposons à la recherche de la sécurité sociale perdue. Et si on organisait ensemble la fête de la Sécu, c'est la proposition que nous faisons pour se la réapproprier, pour la confirmer comme un bien commun et pour l'étendre à d'autres secteurs, l'alimentation, le logement, par exemple. Donc, comment ? Et le salaire à vie. Et donc, nous vous proposons de co-construire avec le CNNR en donnant des idées. Parce que nous pensons organiser la fête nationale de la sécurité sociale à l'automne. Et donc, nous ne voulons pas que ce soit simplement un projet, entre guillemets, que CNNR, mais qu'il soit ouvert à tous les mouvements, les collectifs. On est tous en train de dire il faut qu'on se rassemble. Alors essayons, notre proposition c'est celle-ci, essayons de se rassembler autour de la co-construction de la fête de la sécurité sociale. Et comme disait Gilles tout à l'heure, eh bien continuons à faire des propositions joyeuses et de faire la fête. Donc si vous êtes intéressés, eh bien nous avons donc un stand, laissez-nous votre mail. Et on commencera des échanges nationaux pour co-construire cette fête. Pour l'instant, c'est vraiment juste une proposition. On n'est pas en train de dire oui, ça va se passer ici, ça va être comme ça, on va le co-construire ensemble. Et vraiment, on a envie de le co-construire avec d'autres mouvements, d'autres collectifs, toutes sortes. Voilà. Et de préserver ce trésor. Voilà. Et je passe le micro à un autre membre du CNNR qui a quelque chose à compléter.
Voilà. Ah, non, mais... bon.
Bon, moi, c'était juste une autre... Bon, une autre... Merci beaucoup pour cette démonstration et notamment du salaire qui est en avance de la production. Comme tu l'as dit, Bernard, on a été biberonnés au capitalisme. On a été biberonnés en même temps à la notion de marché, et de marché mondial. Et à chaque fois qu'on essaye de défendre cette idée, ces idées que tu as proposées, on se renvoie, on se fait renvoyer dans la figure, mais et la concurrence, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux nous donner, tu nous as remarquablement expliqué comment on pouvait faire les échelles de salaire, etc., et comment on peut se débrouiller avec ces foutues questions du marché, de la concurrence libre et non faussée, comme nous le disent les traités européens et compagnie et compagnie. Voilà.
En 3 minutes. 2 minutes. Non, oui, non, on a le temps.
Disons que là, d'une part, ce qu'on appelle le coût du capital aujourd'hui dans la production est évalué à 15% du prix des biens. 15% du prix des biens va à la rémunération de quelque chose qui est inutile, le coût du capital, donc. Et donc, les prix que nous pratiquerons sont plutôt plus bas que les prix actuels. Notre place dans la concurrence nationale ne va pas du tout, être mise en cause dès lors qu'il y aura une hausse des salaires, mais qui sera compensée par le fait qu'on se débarrasse de 15% des coûts du capital qui viennent polluer les prix de tous les biens et services. Sur le reste, je ne suis pas un bon interlocuteur sur la question des échanges internationaux. Je crains de ne pas être très bon, donc je préfère me taire, quitte à décevoir. Mais bienvenue au club. Je pense que Réseau Salariat, c'est un intellectuel collectif. Ce que j'ai dit, par exemple, sur la seule avance nécessaire dans la production, c'est le salaire, ça ne vient pas de moi du tout. Moi, j'ai été, encore une fois, très longtemps aliéné à l'idée qu'il faut d'abord avancer du capital et que le salaire, ça vient après. C'est d'autres camarades qui ne sont pas forcément des économistes professionnels. Là aussi, il faut que des profanes ne s'autorisent que d'eux-mêmes pour devenir citoyens, tout simplement. Et donc, c'est peut-être pas de moi qu'il faut attendre la réponse à des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Mais posons-nous les questions aux uns et aux autres, et n'attendons pas non plus toujours de l'expertise qui est utile. Je ne veux pas non plus mettre mon métier à la poubelle, mais je pense que l'enrichissement de la citoyenneté aux questions de la production, aux questions de la création monétaire, qui est vraiment nécessaire si nous voulons sortir de la folie écologique et anthropologique dans laquelle nous emmène la production capitaliste, ça suppose que des profanes en la matière prennent la parole, réfléchissent et s'estiment concernés. Ne disent pas « Oh, la monnaie, c'est compliqué. Oh, tout ça, c'est compliqué. » Non, non, non. C'est pas compliqué du tout.
Je voudrais rebondir sur l'idée du CNNR de fêter la sécurité sociale. J'insiste, je n'ai peut-être pas assez insisté, je pense que c'est essentiel. C'est encore une fois Bernard qui m'a mis la puce à l'oreille dans son débat avec Frédéric Lordon. En gros, je vous la fais courte. Il y a Lordon qui dit qu'il faut faire la révolution parce que ça n'a jamais existé. Et Bernard qui dit mais si, il a raison, ça a existé. Et il faut s'en rappeler. Et on voit bien dans la sociale à quel point Croizat est oublié à dessein. Il est oublié pour deux raisons principales. Premièrement, il est insupportable de penser qu'un ouvrier puisse avoir accompli d'aussi grandes choses. Et puis deuxièmement, ces idées doivent être absolument battues en brèche et enterrées.
C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça qu'il est totalement invisibilisé. Et donc, je pense que rappeler ce qui a été conquis, rappeler ce qui a existé, y compris ce qu'a expliqué Bernard sur les CHU, c'est tout à fait juste. Rappeler que ça a existé et qu'on a pu le faire. C'est extrêmement important par rapport à tous les détracteurs qui nous disent que c'est impossible. Mais si, c'est possible. Puisque c'est même le système qui était le plus vanté dans le monde. Le système social français, c'est une chose qui était le plus vantée dans le monde, que tout le monde connaît. Bien. Et donc je pense que c'est très très important de s'appuyer sur ce qui a existé. Non pas pour être des dinosaures et dire, tu vois, dans l'ancien temps c'était mieux, mais pour s'appuyer là-dessus, pour dire ça a existé, alors il faut au minimum reconquérir ça et aller plus loin. Voilà. Et je pense que c'est très 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 important. C'est pour ça que le film de Gilles Social est important, aussi pour ça, mais reparler de Croisa, redire ce qui était le projet au départ, le projet qui a été appliqué, ce qu'on a pu faire, sans faire appel au capital, rien qu'avec la cotisation, tout ça, toutes ces choses-là, il faut le rabâcher pour dire arrêtez vos sornettes là, c'est possible, ça a déjà été fait, et dans des situations économiques où la France était bien plus mal barrée après-guerre dans les 60 que maintenant, bien plus mal barrée que maintenant. Voilà.
J'en profite juste, puisqu'on mentionne souvent la sociale, pour rendre hommage à Michel Etiéban, qui nous a quittés cette année et qui serait sans doute parmi nous sur le plateau demain. Et, c'est donc, un ami, mais aussi on lui doit énormément pour tout le travail de mémoire sociale et justement pour lutter contre l'amnésie organisée. Et voilà, je voulais juste qu'on ait une petite pensée pour lui et son travail. Bernard, tu avais un petit ajout par rapport à...
Ben, je voudrais faire écho au témoignage sur la retraite. Si on ne se bat pas pour actualiser le geste de Croisa, Croisa, il dit, la retraite, c'est du salaire. C'est la poursuite du salaire. Ce n'est pas la contrepartie de cotisation passée, c'est la poursuite du salaire. La réponse patronale, dès 47, si... Ah non, non, la retraite, c'est la contrepartie de cotisation. Mais justement, on voit bien où est la lutte de classe. Hein, c'est le fait de poser avec force que la retraite, c'est du salaire. Donc, la seule proposition qui vaille en matière de retraite, c'est évidemment, aucune retraite ne doit être inférieure au SMIC. Et si le SMIC est à 1500 euros, toutes les retraites doivent être portées à 1500 euros. Évidemment, enfin toutes les retraites inférieures. Mais ça, tout ça ne peut. Il faut donc. Et cette dissociation entre le salaire et l'emploi, c'est aussi ce qui fonde la proposition de salaire à 18 ans, pas d'une allocation jeune à 1150 balles. Si c'est salaire, c'est au minimum le SMIC. Encore une fois. Tant que nous acceptons qu'il y a des minima sociaux, qu'il y a des ressources qui ne sont pas des salaires, c'est que nous acceptons que le salaire, il est lié à l'emploi. Toutes les ressources doivent devenir du salaire et s'inscrire dans la hiérarchie des salaires, une hiérarchie qui ne soit pas du 1 à 20, vous comprenez ? Parce que si c'est 1 à 20, ça veut dire qu'on accepte des salaires mensuels de 30 000 euros. Enfin, c'est indécent. Hein. C'est 1 à 3 paraît une très bonne chose. Donc, avec un SMIC à 1700 euros et un salaire maximum à 5 000 euros, au-delà de 5 000 euros, en dehors d'emmerder le monde, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire au demeurant.
Oui, on vous entend, monsieur. Donc, là-bas, à droite. Oui, on vous écoute. Non, on ne vous entend pas, en fait.
Il y a un autre micro. Ouais.
Merci.
Bon, oui. Faut arrêter de casser les micros, monsieur.
Oui,
alors,
voilà.
C'est plus possible.
Oui, ça va être très rapide. Vous m'entendez ?
Non.
Voilà. Voilà.
Non, je pense que c'est un problème de wifi. Enfin de...
Oula, attention.
Voilà, ça fonctionne. Voilà. Merci. Évidemment, le débat est très intéressant. Merci d'avoir rappelé que l'histoire du salaire continu, la retraite, c'est un salaire continu. Mais ne pensez-vous pas, actuellement, dans notre 5e République, nous n'avons aucun pouvoir politique. Aucun pouvoir politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait populariser cette idée de référendum d'initiative citoyenne, mais constituant, c'est-à-dire constitutionnel, c'est-à-dire inscrit dans la Constitution, hein, comme nos amis suisses, comme en Uruguay et d'autres pays, hein. Ainsi, on pourrait demander, par exemple, hein, une personne pourrait demander toute seule une initiative de dire ben, « Je veux le 100% sécurité sociale. Je propose une loi pour faire revenir la création monétaire. Hein. » Bon, voilà des exemples. On pourrait abroger des lois. On pourrait réhabiliter la loi qui avait été supprimée. Donc, à mon avis, c'est quelque chose de très important à faire connaître, parce que sinon, on est impuissant, on n'arrive pas à sortir de notre impuissance. Donc, ce référendum d'initiative constituant permettrait d'avoir à la fois l'initiative, proposer une loi, abroger une loi, voire révoquer un élu, mais sans que ça passe devant l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui s'exprime. Il y a un référendum, on réunit 500 000 voix, 700 000 voix, on comptabilise, ensuite c'est accepté, il y a des débats équilibrés, les pour, les contre, comme ça se fait en Suisse, et ensuite le peuple tranche. Et ainsi, je pense que ce serait un progrès social énorme pour sortir de notre impuissance. Merci.
Est-ce que ça amène une réponse ?
Non, mais, pourquoi pas, hein, simplement, moi j'ai un micro pour dire ce que je sais dire, c'est-à-dire des questions qui tiennent au statut des travailleurs et à la production, donc je suis un opposant absolu à la 5e République, et en plus depuis le référendum de 62 qui fait cette élection au suffrage universel du président, qui est une calamité, je n'ai pas de compétences pour intervenir en écho. Enfin, voilà, vous vous adressez au public je suis pour que nous multiplions les formes de la démocratie, mais je n'ai pas de compétences pour savoir quelle est la... Qu'il faut sortir de la 5e République, passer à la 6e sans doute, mais je n'ai pas de compétences particulières sur cet objet, donc excusez-moi, mais je suis un petit peu comme pour l'international, je suis obligé de...
Voilà, la seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que ce que vous racontez, on peut penser que c'est juste, mais ça ne garantit absolument pas le résultat. Justement, on a l'exemple de la Suisse, qui dans les votations n'arrête pas de voter les choses les plus... Ils n'arrêtent pas de reculer. En Suisse, le revenu minimum obligatoire, c'était pas un salaire à vie, mais ils ont essayé de mettre en place une sorte de revenu universel, etc., a été balayé d'un revers de main.
Parle pas trop fort, on n'est pas loin.
Et si vous saviez, sur les sondages, hélas, sur les sondages sur l'assurance chômage, dans les milieux populaires, les chômeurs sont, si vous voulez, ne sont pas du tout populaires. C'est plutôt dans les milieux populaires où justement ce poison d'opposer le smicard qui se lève tôt au chômeur qui se lève tard, c'est plutôt le réflexe de dire il y a mon voisin qui touche du pognon et qui fout rien, et moi qui me lève et qui va à l'usine. Ce que je veux dire, c'est pas du tout que je remets en cause ce que vous racontez. Je pense effectivement que laisser le pouvoir divin à un type et ensuite tous les 5 ans lui demander, c'est une catastrophe. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus la panacée avec obligation de résultat. Hein, voilà, c'est tout.
C'est une 10, mais le SMIC en Suisse, c'est 3 800 euros.
Oui, oui, mais pas pour des raisons de votation.
On prend encore deux questions et puis après on va devoir arrêter. Il y a une dame devant qui lève la main depuis longtemps, Steph. Ah. Ok, ça marche.
Ouais. Bonjour à tous. Merci de votre intervention. J'aimerais juste dire un petit truc que Bernard n'a pas évoqué, mais c'est ce qui me semble essentiel dans ses travaux, c'est la question du déjà là. Parce que souvent, on a tendance dans les milieux de gauche, pour parler large, à parler en termes d'utopie, de penser à un autre monde, autre chose, un ailleurs. Or, comme ça, on n'arrivera à rien, puisqu'en fait, il faut bien que quelque chose s'ancre quelque part. Et le mérite des travaux de Bernard, à mon sens, c'est aussi de montrer que justement, le communisme, il est déjà là en train de se développer dans le capitalisme, pas à l'extérieur, et par la lutte des travailleurs. Et une question du coup qui n'a pas été évoquée ce soir et qui me semble quand même essentielle, c'est la question de la propriété, puisque reconnaître le salaire attaché à une personne me semble extrêmement important. Mais comment, Bernard, tu articules ça avec la question de la propriété des moyens de production? Toi, tu parles de la propriété lucrative, avec la gestion des moyens de production par les travailleurs, justement. Et ce qui suppose aussi d'avoir une réflexion sur l'actionnariat, puisqu'aujourd'hui, l'idée du grand patron qui possède une usine et tout ça est quand même dépassée. C'est beaucoup plus la structure du capital, c'est beaucoup plus des grandes multinationales qui sont plus attachées à des États, où la propriété est assez diffuse, puisque c'est un réseau d'actionnaires qui se répartissent dans plusieurs endroits dans le monde. Et après, avec des filiales qui elles-mêmes n'ont pas de réel pouvoir, puis de la sous-traitance. Voilà, mais comment justement on peut articuler cette réflexion-là avec la question du salaire à la personne? Parce que il me semble, moi, que si on détache la question du salaire à la personne à la propriété et au pouvoir sur le moyen de production, on ne peut pas dépasser radicalement le capitalisme actuellement.
Oui, bien sûr. Hein, on a abordé ici qu'un des volets des droits à poser comme, à 18 ans comme droit de la citoyenneté. Il faut distinguer en matière de propriété la propriété d'usage et la propriété patrimoniale. Hein. Un outil, ça, c'est quelque chose, un immeuble, une machine, enfin, dans une entreprise, des logiciels, je sais pas, enfin, n'importe quoi, si c'est pas forcément immédiatement matériel. Mais un outil, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc ça, c'est la propriété d'usage. La propriété d'usage, elle doit être le fait des seuls utilisateurs de l'outil, c'est évident. Et la propriété patrimoniale, c'est le fait que cet outil, il vaut. C'est pas simplement cet immeuble, ces machines, elles valent. Et il n'est pas... Les travaux sur les coopératives dans lesquelles les travailleurs sont à la fois propriétaires d'usage de l'outil, mais également propriétaires patrimoniaux, montrent que ce n'est pas très bon. Je vous renvoie aux travaux de Boritz, par exemple. Je pense qu'il faut donc distinguer le collectif de travail, qui est évidemment propriétaire d'usage de l'outil, qui décide la façon dont l'outil est utilisé, etc., et un collectif propriétaire, alors qui ne peut pas être effectivement une personne privée, évidemment, un collectif propriétaire patrimonial de l'outil et qui va être une collectivité publique, mais en changeant leur mode de définition aujourd'hui. Le camarade qui faisait appel au RIC, mais on peut aussi ajouter toutes les formes de démocratie autres que la démocratie de représentation qui se cherchent, pour lesquels nous avons maintenant beaucoup d'exemples intéressants, mais dont je ne suis pas spécialiste, c'est pour ça que j'ai botté en touche. Mais c'est un problème vraiment décisif, hein, que cette propriété patrimoniale des entreprises soit le fait de collectifs qui ne se confrontent pas avec le collectif de ceux qui utilisent l'outil, mais qui présentent des garanties démocratiques, hein, quant à leur composition. Comment maintenant en finir avec la propriété patrimoniale lucrative, celle du capital? Bon, ça suppose déjà, encore une fois, que nous menions la campagne sur l'inutilité de l'avance en capital. Tant que nous sommes convaincus qu'il faut une avance en capital, nous rendrons forcément hommage à nos maîtres. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut conquérir, mettre en place des institutions macroéconomiques qui permettent la mise en cause de cette propriété patrimoniale lucrative, effectivement. Alors, par exemple, hein, quand on réfléchit sur une sécurité sociale de l'alimentation, on prend le modèle de la sécurité sociale du soin tel qu'elle se construit dans les années 60. On on alimente, alors soit par création monétaire, hein, soit par socialisation de la valeur déjà créée, tout ça est à discuter, on alimente une caisse de sécurité sociale du soin qui va... de l'alimentation, pardon, qui va par exemple abonder de 100 euros par personne et par mois la carte vitale. Et ainsi, l'accès à l'alimentation avec cette carte, hein, 100 euros par personne et par mois, ça représente 80 milliards. Hein, c'est le tiers du marché alimentaire aujourd'hui qui est de 240 milliards, je crois. Cette carte ne pourrait être utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés. Et on ne va pas être idiot. On ne va pas conventionner Carrefour, bien sûr. On ne va pas conventionner l'agrobusiness. On va conventionner tous les alternatifs qui existent dans toute la filière de la production, de la distribution, de l'alimentation et de la restauration. Et il y a des alternatives partout aujourd'hui. Nous allons alors qu'ils sont marginaux, nous allons leur confier le tiers du marché de l'alimentation, 80 milliards, les sortir de la marge. Et c'est avec comme critère de conventionnement que les entreprises en conventionnées soient la propriété de leurs salariés, enfin de la propriété d'usage, qu'on mette en place des collectifs de propriétaires patrimoniaux de ces établissements, de ces entreprises ou de ces commerces. Donc on met en place à l'initiative, comme on l'a fait pour le soin, on l'a fait, c'était pour 10% du PIB, hein. C'est pas pour, on ne l'a pas fait pour un truc marginal. Encore une fois, ce qu'a dit Samuel est très important. On ne réfléchit pas en permanence, hein, tout l'enjeu, c'est d'actualiser et de généraliser un déjà là qui est la preuve que nous ne sommes pas les vaincus de l'histoire et que le capitalisme n'est pas un système qui nous broie, pas du tout. Et donc, en étant inventif et heureux, d'ailleurs, les deux à la fois, je pense que le bonheur est effectivement essentiel. J'ai eu l'autre jour après un débat à Paris, un danseur étoile de l'opéra qui vient me voir, entre 25 et 30 ans, qui me dit « Ma grand-mère, elle s'est battue toute sa vie. Ma grand-mère, elle était vraiment une militante. Et elle est aigrie. Comment est-ce que je peux, moi, devenir militant sans maigrir ? Maigrir sans devenir aigri. Hmm ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Le bonheur de la militance repose sur le fait que nous nous inscrivons dans un déjà-là. On n'est pas à attendre un futur hypothétique en sachant qu'on sera mort avant et on devient progressivement aigri. Non, on se bat pour actualiser quelque chose qui en général est absent de notre histoire, parce qu'évidemment la bourgeoisie nous raconte un récit de notre passé qui exclut complètement l'histoire populaire, qui transforme nos victoires en défaites ou nos défaites en victoires, évidemment. Mais à partir du moment où, et c'est le rôle des chercheurs en sciences sociales, nous accédons à un récit qui fait honneur aux conquis des travailleurs organisés, nous avons des tremplins. Donc je reviens à comment, parce que la question est fondamentale, hein, comment est-ce que nous pouvons mettre en cause le pouvoir des actionnaires et la propriété lucrative ? Bien, si vous confortez par un marché qui est réservé à ces producteurs, ces distributeurs d'alimentation, vous confortez toutes les alternatives aujourd'hui qui sont très nombreuses. Et deux, si vous ôtez à Carrefour le tiers de son chiffre d'affaires, parce qu'on ne pourra pas, avec la carte vitale alimentaire, aller la dépenser à Carrefour, il ne sera pas conventionné, évidemment. Mais vous mettez Carrefour en péril. Carrefour, s'il perd le tiers de son chiffre d'affaires, il est en péril. Du coup, les emplois chez Carrefour sont en péril. Du coup, les travailleurs de Carrefour, qui peut-être aujourd'hui, pour le moment, ne sont pas du tout sur le trip, comment on va devenir propriétaire d'usage de Carrefour, comment est-ce que on va sortir Carrefour de sa logique financière. Pour le moment, c'est minoritaire parmi les travailleurs, ces questions-là. Mais elles vont devenir majoritaires. Parce que en péril de perdre leur emploi, ils vont se dire, attendez, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit conventionné? Ah, il faut qu'on ne fasse plus appel au marché des capitaux, il faut qu'on devienne propriétaire d'entreprise. Voilà, et nous allons créer une dynamique, c'est ça le point, hein, créer une dynamique de mobilisation dans les lieux de travail pour la conquête de la propriété d'usage et patrimoniale de l'entreprise. C'est vraiment... alors, ça suppose en même temps de conquérir des droits, hein, bien sûr, en même temps, qui fassent que ces travailleurs puissent le faire. Par exemple, en faisant une bataille pour la retraite qui soit fondée sur la revendication de la retraite à 50 ans. C'est-à-dire qu'à 50 ans, chacun devient titulaire. Le geste de croisant en 46, c'est un retraité, c'est quelqu'un qui n'a plus besoin d'aller sur le marché du travail pour avoir son salaire. Il a un salaire lié à sa personne. La qualification passe du poste à la personne. Qui est la revendication aujourd'hui de la CGT quand elle parle de sécurité sociale professionnelle. C'est dans la continuité ce geste de croisade. Eh bien donc, à 50 ans, et il y a à peu près 600 000 cinquantenaires sur le marché du travail aujourd'hui, à 50 ans, on devient titulaire de son salaire qui est porté au salaire moyen. Alors, la CGT revendique qu'on double nos salaires au cours de la vie active, au cours de la vie tout simplement, pourquoi pas. Ça veut dire qu'à 50 ans, on a le salaire moyen qui est de 2300 euros net aujourd'hui. Donc, à 50 ans, tout le monde devient titulaire de son salaire. Il est porté à 2300 euros net. Et puis, pour ceux pour qui il est supérieur à 5000, il est ramené à 5000 euros. Ce qui fait d'ailleurs un écart de salaire de 1 à 2 à partir de 50 ans, ce qui devient quand même un peu plus raisonnable. Et avec la possibilité, pour ceux qui sont à 2300 euros, donc il n'y a plus de salaire inférieur à 2300 euros à 50 ans, d'accord, de monter en qualification au cours du reste de leur vie jusqu'à un plafond de 5000 euros. Bien. Mais ces cinquantenaires vont être par ailleurs illicenciables, mais avec une responsabilité, hein, auto-organiser les travailleurs dans l'entreprise. Hein. Là, le déplacement de l'action collective vers l'autogestion, vers le souci de qu'est-ce qu'on fabrique, comment, qui pour le moment n'est pas l'objectif syndical majoritaire. Il faut absolument que ce déplacement s'opère, ne serait-ce que pour la bifurcation écologique, mais aussi pour que nous ayons la maîtrise sur notre travail, ce qui est quand même le cœur de notre existence. Bien, la conquête d'un tel droit, donc, donne une toute autre perspective aux retraités. Hein. Ils vont pas être condamnés au bénévolat, même quand le bénévolat est sympathique parce qu'il organise le rassemblement des glières. Mais nous sommes quand même en marge de la production. Là, il s'agit au cœur de la production. Hein. Que des travailleurs qui sont en pleine possession de leurs moyens professionnels, ils ont 50 ans, ils sont exaspérés parce qu'ils n'arrivent pas à faire, à travailler comme ils l'entendent. Ils vont au boulot plutôt en traînant les pieds, en disant vivement la retraite, mais on va changer complètement. Ce ne sera pas vivement la retraite, c'est nous sommes en retraite, nous sommes en responsabilité d'auto-organiser la production et nous allons le faire dès lors qu'il y aura mobilisation des travailleurs pour s'auto-organiser, ils vont automatiquement se heurter à l'actionnaire. Et c'est là que la bataille contre l'actionnaire devient concrète. N'espérons pas en finir avec la propriété patrimoniale lucrative tant que nous ne mènerons pas, comme le rappelait Samuel à propos de la mobilisation des intermittents qui ne s'est pas fait dans la rue d'abord, mais d'abord dans des mobilisations concrètes qui ont mis en cause des responsabilités et des actionnaires, tant que nous n'aurons pas donc cette bataille pour la maîtrise du travail qui va nous affronter nécessairement aux directions en tant que commis des actionnaires, n'espérons pas changer quoi que ce soit à la propriété lucrative, qui est effectivement un changement tout à fait nécessaire. Mais nous avons les voies pour le faire.
Il faut vraiment que je t'arrête, Bernard, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Madame, très vite. Enfin, je suis désolé de... Merci pour le...
Merci beaucoup pour vos interventions. Vous dites qu'il ne faut pas compter sur les gouvernements pour faire un quelconque changement. Par contre, ce que je voulais dire, il y a quand même des élections qui vont avoir lieu. Là, c'est les élections législatives. Et il y a un mouvement qui s'appelle l'ANUPS, donc Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Même s'ils ne vont certainement pas tout faire, on est tout à fait conscient que la bagarre, il faudra aussi continuer ailleurs que sur les élections. En attendant, c'est quand même, il y a des propositions qui sont quand même extrêmement intéressantes, et c'est pour ça que je suis militante. C'est passer de la 5e République à la 6e en faisant une constituante. Et dans cette constituante-là, les Français pourraient faire des propositions, notamment celles dont vous venez de parler. Et ça serait mis à référendum et ça pourrait être appliqué. Donc pourquoi je dis tout ça ? Eh bien parce que si nous sommes suffisamment de militants pour la NUPES, on peut peut-être espérer de la faire gagner et de renverser quand même la situation qui se trouve actuelle, qui n'est que la continuité des gouvernances que nous avons eues jusqu'à présent. Donc j'appelle vraiment les gens, pour ceux qui ne militent pas encore, de nous rejoindre. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Voilà. C'est pas une croyance.
On est d'accord avec vous, madame. On est d'accord avec vous. Il faut battre cette armée de godillots que nous avons supprimée. Bon. Évidemment qu'il faut les battre.
Merci à toutes et à tous. Donc on a parlé de catéchisme, on a parlé du pape François. Vous pouvez aller vous faire baptiser à l'église du réseau salariat qui a un stand dehors. Maintenant on va se faire engueuler par la CGT, par Solidaire, par tous les partis politiques qui sont trop mous grâce à Bernard. Bonne soirée, on reprend à 20h ici, concert, une prise de parole de CRHA, cinéma avec le film sur Assange, et puis demain au plateau des Glières, et n'oubliez pas, il y a des tirelires à la sortie. Merci, on se dépêche pour que les musiciens puissent s'installer. Voilà.
Gilles, je pense qu'au niveau de la musique, ça sera plutôt aux alentours de 21h. Hein.
Plutôt 21h, comme ça, ouais. Ça laisse le temps de boire
un... Parce qu'on a un petit peu de boulot, là.
Non, 20h30, on va dire. 20h30, on a des dégourdis. Voilà.